Bonjour à tous et bienvenue pour cette émission Les Pionniers de l'AFM à Montluçon depuis eh bien le MuPop de Montluçon. Rappelons que la fête de la radio eh bien se déroule actuellement dans toute la France et durant cette semaine afin de célébrer eh bien le centenaire du média radio et également les 40 ans de l'AFM libérée, je vous rappelle, en 1981. L'opération est soutenue bien sûr par le CSA et le ministère de la Culture et qui a pour objectif de donner un petit coup de projecteur sur le média radio, son histoire, son agilité et bien sûr son avenir. Alors tout d'abord, en parlant de l'histoire, pourquoi Montluçon, l'offre est aussi riche avec une trentaine de radios? Eh bien, simplement parce que lors de la libération de la FM au début des années 80, eh bien, de nombreuses radios libres ont vu le jour à Montluçon. Radio Allier, Radio 3, Radio Montluçon Bourbonnais, Radio 93, c'est l'ancien nom de RJFM, Radio Caroline, Radio Fréquence Néry, Radio Tartas, Radio Savigny-Vernet et d'autres. Certaines ont disparu et leurs fréquences sont utilisées par les opérateurs nationaux. D'autres ont survécu et sont toujours dans le paysage radiophonique montluçonnais. C'est pourquoi aujourd'hui, eh bien, RJFM donne la parole aux différents acteurs de l'époque, à savoir donc les pionniers de l'AFM à Montluçon. Alors autour de cette table, alors pas un pionnier de l'AFM à Montluçon, mais nous avons le plaisir d'accueillir le président du CTA de Clermont-Ferrand, l'antenne du CSA régional, Pierre-José Chadaigne. Bonjour et merci de votre présence parmi nous.
Merci beaucoup pour votre invitation et très heureux d'être là parmi vous avec les pionniers de l'AFM à Montluçon.
Alors Alain Lombard également avec nous pour la création de Radio Allier, Radio 3. Salut Alain.
Salut.
Ça va? C'est bizarre de faire la radio, hein, de revenir à la radio un peu là. Hein.
Oui, ça fait un peu drôle.
Alain Rivière, co-créateur de la première grille d'antenne de RMB, responsable d'antenne également de Europe de Montluçon, et aujourd'hui tu officies sur France Bleu Creuse.
Absolument, depuis de nombreuses années.
Tu vois, salut, je
n'ai pas lâché le micro. Bonjour à toutes et à tous.
Jacques Bouvier, responsable de l'antenne de Radio Caroline de 84 jusqu'au passage Fil FM Europe 2. Bonjour Alain, Jacques.
Bonjour micro.
Didier Sima, responsable d'antenne pour RMB dans les années 80. Salut Didier.
Salut.
Et toi aussi, maintenant tu es sur Radio France Creuse.
Hein. C'est ça.
Voilà. Jérôme Auclair, animateur sur divers médias de l'époque et aujourd'hui président d'RJFM. Bonjour Jérôme.
Bonjour Fabrice.
Et puis Mimi, tiens, Michel, hein, épouse de Jacques Bouvier, qu'elle a rencontré d'ailleurs dans les studios de Radio 3, tu le raconteras tout à l'heure. Voix de pub, t'as été un peu tout, hein, Mimi.
Un petit peu tout, oui. Le trio des radios.
Oh, quand même pas.
on disait, le va chercher.
Oh, en tout cas, bienvenue à toi également. Merci. Autour de cette table. Laurent Motte, salut Laurent.
Bonjour Fabrice, bonjour à tous les
amis. Animateur sur Radio 3, Radio Caroline, Fréquence Néry, enfin...
Oui, les trois.
Les trois. Puis on a Jean-Marc également sur le côté. Salut Jean-Marc. Bonjour. Qui a fait Radio 3 aussi. Et d'autres aussi ou juste Radio 3? Que Radio 3, d'accord. Alors je suis vraiment désolé parce que je n'ai pas trouvé quelqu'un pour s'exprimer sur Radio 93, qui était un projet pédagogique du collège Jean-Jacques Soulier. C'est emmené par le professeur de musique, Monsieur Baptiste, hein, à l'époque. Et Radio 93 serait a priori eh bien, la première radio à diffuser sur les ondes FM à Montluçon. Donc désolé, on n'a pas trouvé personne. J'ai pourtant bien cherché. A priori, le professeur en question serait dans le sud-ouest de la France. Mais je n'ai pas réussi à le joindre. On va commencer chronologiquement par Radio 3, Alain.
Oui.
Hein, Alain, tu étais photographe à la base. Comment passe-t-on eh bien, de l'image au son? Pourquoi as-tu créé Radio Allier? Est-ce que ça s'appelait Radio Allier au départ?
Tout à fait, oui.
Explique-nous.
Eh ben, j'ai rencontré quelqu'un qui était sur Clermont et puis qui faisait de la radio. Et ben, donc, qui commençait lui aussi. Et puis par curiosité, je l'ai contacté et puis on s'est vu plusieurs fois.
Ouais.
Et puis après, j'ai acheté du matériel. Et puis j'ai amené ça rue Ampère, et puis voilà, et puis c'est parti, tout simplement. Voilà, j'ai monté les pylônes, j'ai monté, enfin tout ce qu'il fallait.
Alors c'est vrai que les studios étaient situés 11 rue Ampère, hein. Alors, je me souviens ce grand couloir là, c'était assez sombre, on arrivait sur une salle au fond, il y avait les studios tout au fond, c'est ça hein.
Tout à fait, oui.
Fais-nous une visite un peu virtuelle de l'époque, c'était comment?
Alors, ça dépend, il y a eu plusieurs époques. La première époque, c'était pas au fond, c'était à l'entrée. Les tables de mixage, les platines étaient à l'entrée. Et donc, c'était juste une petite cabine. Hein, puis après, bon, bah, ça s'est agrandi. Et puis, on a tout poussé au fond. Et puis, on a fait, avec la grande table de mixage, la Soundcraft, voilà, la grande table de mixage, et puis tout ce qu'il fallait.
Combien d'animateurs à l'époque à Radio 3?
Oh là,
Radio Allier, dis-moi.
Oui, à Radio Allier, il n'y avait pas beaucoup de monde. Il y en avait 5, 6, 7, enfin disons une dizaine qui tournaient. Et puis après, progressivement, il y avait eu de plus en plus de monde. Puis avec le temps. Puis après, ça a fait le contraire. Ça a diminué.
Et à l'apogée, c'était combien de personnes?
Vers la fin, on était peut-être 4-5.
Non, mais à l'apogée, au mieux.
Au maximum, oui, on pouvait être 25.
Ah, c'était pas mal déjà.
Oui, il y avait du monde. Chacun avait sa petite émission qui passait, voilà. Donc, c'était infernal, c'était magique, mais à gérer tout ça, c'était. Ouais, pour une entreprise que c'est une vraie entreprise de radio, bon, alors nous, c'était dur quand même. Mais bon, mais je crois que tout le monde s'est fait plaisir, hein, c'était l'essentiel, je crois. Ouais.
Alors, au début, c'était Radio Allié qui est passé en Radio 3. Pourquoi le changement de nom ?
Parce qu'on avait pris le prénom de.
Du département ?
Du département, alors il y en a que ça dérangeait, donc.
En fait, si j'ai bien compris, les noms de départements et des régions étaient préemptés pour les Radio France, c'est
voilà,
ça en fait.
Hein. Route, ouais, et puis qui n'ont jamais servi. Hein, bon. Donc, il ne fallait pas confondre hein, les gros et les petits. Hein, donc.
Alors, j'imagine que toi, déjà à l'époque, alors, c'est né en quelle année exactement Radio 3, Radio Allié ?
81, j'ai commencé à récupérer du matériel, à me renseigner, puis en 82, ça commence à démarrer. Quoi.
D'accord. Tu as fait les foires de Montluçon, j'imagine, choses comme ça ?
Oui, je suis allé deux ou trois fois, oui, donc ça se passait bien aussi, c'était original, quoi, je veux dire, mais, bon, mais c'était quand même du boulot. Hein. Hein, et puis il fallait assurer sa propre soi-même, travailler aussi, donc à l'extérieur, plus sain, donc ça, c'était énorme. Hein, enfin, mais bon, moi ça me plaisait, c'était mon genre, je dirais. C'était ma tasse à moi de faire ça. Donc,
Laurent Mott, tu étais animateur aussi, il me semble, sur Radio 3, hein, c'est ça ?
Oui, j'ai fait la fin de Radio Allié et le début de Radio 3.
Ouais. Tu as quelques souvenirs de là-bas, raconte-nous un petit peu. Ouais,
ouais bien sûr. C'était magique, quoi. Je me rappelle quand on faisait du décrochage en extérieur dans le Montluçon pour les fêtes de Noël. Ah, c'était magique, on n'avait pas tous les moyens techniques qu'il y a maintenant.
Oui. Alors le décrochage, en fait, c'est ça, c'est quoi ? C'était l'émission qui partait des studios.
Alors,
qui était.
La musique et les jingles partaient des studios, mais voilà. Nous, le micro, on était en extérieur, et voilà. Et on arrivait à tout mettre pile poil, c'était génial.
Ouais, les liaisons ont toujours été des problèmes, hein, surtout sur Montluçon.
Oui, voilà, monter sur les toits,
monter les antennes.
Oui, c'est le roi des antennes. Jacques, tu étais aussi, toi, hein ?
Oui, j'étais aussi. Mais Alain est très modeste parce qu'il n'a jamais vraiment fait beaucoup de radio. Par contre, il a permis à beaucoup de gens de faire de la radio. Parce que ton truc, Alain, c'était de créer quelque chose, c'était de créer une radio. Ouais. C'était pas de passer à l'antenne.
Non.
Voilà. Et tu parlais tout à l'heure des extérieurs ou de la Foire Expo. Je me souviens, on faisait ça dans une caravane.
Ah oui, il y a des photos.
Il y a des preuves.
Dans une caravane. Il y a toujours des solutions au problème. Ouais. Hein.
Et je me souviens, pareil, pour émettre sur Montluçon, il fallait être le plus haut possible, mais le plus près possible. Et je me souviens d'un week-end où, avec Alain, on a fait la campagne, on a trouvé une ferme sur Saint-Fargeol qui acceptait qu'on mette un dipôle pour émettre à la pointe d'une grange, et nous, voilà partis avec l'échelle pour aller installer le dipôle là-haut. Et mettre l'émetteur en dessous. Mm-hmm. C'était fantastique à l'époque.
Jusqu'à Saint-Fargeol.
Ouais. Pour arriver à émettre un peu sur Montluçon.
Alain, ton meilleur souvenir par rapport à Radio 3, c'est quoi ? Ton meilleur souvenir ?
Mon meilleur souvenir, il y en a des centaines. Hein. Et puis, ils sont tous de qualité identique. Quoi, je veux dire. Non, il y a.
Il y avait une vraie équipe, hein, j'ai l'impression aussi, Radio 3, c'était un.
Je crois que, bon, il n'y a jamais eu trop de clash, il n'y a pas eu trop. Oh, puis, non, ça se passait bien, je crois. Puis tout le monde était accueilli, hein, bon. Il y en a qui n'étaient pas très bons, mais ça fait rien. C'était pas le but, quoi. C'était bon. Je crois qu'on s'est plus amusé à l'intérieur qu'à l'extérieur, pour ceux qui écoutaient. Mais bon, parce que c'était nouveau, hein. Et bon, je crois que. Bon, des fois, les gens devaient s'ennuyer derrière. C'était les cassettes qui passaient, des fois, des trucs. Mais bon. Mais je crois que c'est surtout. Moi, ce qui me plaisait, c'est que quand les animateurs étaient derrière et que ça leur plaisait.
Oui.
Et ils se projetaient, ils avaient envie d'être demain être l'animateur de RTL ou autre chose. Mais enfin, je veux dire, c'était ce côté-là. Quoi. Je crois que moi, c'est ce qui j'étais plus sensible sur cette partie-là. Quand ils ont été contents, moi, j'étais content. Pour le reste.
Bon, il y a un Facebook, je crois, pour les amis de Radio 3, c'est ça, hein, qui existe ?
Oui, oui.
C'est ça, hein.
Pas, j'ai mis quelques...
Il y a quelques photos, on peut les voir sur Facebook.
Oui, oui, aussi, oui.
C'est un groupe ouvert, on peut y aller. Hein,
oui, oui, tout à fait, oui, hein. Oui, c'est Radio 3, hein, c'est marqué. Ouais,
voilà.
Oui.
Donc,
les pylônes qu'on a montés. Quoi.
Parce que, voilà. Et les photos d'époque.
De folie, hein. Des, à 20 mètres de haut, des bouts de ferrage en boîte. C'est comme ça, hein, ça va être attaché, ça.
C'est ça, c'est ça. De briquet de broc.
Ah ouais, mais...
Quand on dit Radio Bout de Ficelle, quand on dit Radio Bout de Ficelle, c'est un peu ça, alors...
Ben, il fallait, hein, il y a pas bien le choix. Hein, ouais, ouais, ouais.
On faisait avec les moyens du bord, quoi.
Voilà, tout à fait, ouais, ouais.
D'accord. Mm-hmm. Merci, Alain. Dans la suite, dans la continuité, il y a RMB qui est né avec notamment... Alors, je parle d'une époque où RMB, la naissance, c'était dans les locaux de la conciergerie du Vieux-Château, avant le transfert à l'hôtel Charnisé.
Juste là. Ouais.
Juste là, à côté de... parce que maintenant, le Mupop est d'ailleurs sur cet hôtel Charnisé. Alain Rivière, raconte-nous donc les débuts de RMB, parce que tu as co-créé eh bien, la première grille d'antenne.
Avec Henri Combeau. On était animateurs sportifs tous les deux et on avait rencontré quelqu'un qui nous avait dit « Les gars, on veut monter une radio, est-ce que ça vous dirait ?» Je voudrais juste dire quelque chose quand même, parce que j'ai Alain Lombard qui est juste en face de moi, Jacques Bouvier qui vient d'intervenir tout à l'heure. Je voudrais vous dire que dès qu'on a commencé à vous écouter, on s'est dit « La radio libre peut exister. » Parce qu'on pense vraiment que vous avez fait partie des gens qui ont vraiment fait de la radio libre. Mmh. Ce qui a peu été le cas, même à Montluçon. Les radios, on le savait, pour exister, avaient besoin d'argent. Et il y a des gens qui, pour faire passer des messages, avaient monté des radios. Ça, c'est important. Et je crois que ce n'est pas le cas de Radio Allier. Il a raison de dire hein, que Radio Allier est devenu Radio 3, je vais y revenir après, mais il a eu raison. C'était réservé au local de Radio France, le nom des départements. J'ai monté plusieurs dossiers pour qu'il il le sait, Fabrice Agnew, mais pour qu'il y ait une Radio France ici, hein, puisque j'ai été embauché pour ça. Un jour, on m'a dit, il y a très longtemps, je tirais le nom du président de Radio France, qui me l'a dit personnellement, il m'a dit, on est trop proche du pouvoir local pour se permettre ce genre de choses. Comme à Bourges, il n'y aura jamais de radio à Montluçon. Voilà, c'était il y a très longtemps. Et puis, quand c'est devenu possible, eh bien, il y avait d'autres grosses stations qui sont montées, Nice et autres, parce que 1% d'audience à Nice, ça vaut 25% à Montluçon.
Ça vaut beaucoup, oui.
En termes de globalité. Hein. Bon, voilà, c'était pour le dire. Bravo, en tout cas, à tous ces gens qui ont fait de la radio et qui vraiment ont fait de la radio libre. Et je voudrais vous dire qu'on vous a écouté. Vous avez été les premiers à... Alors, toi, Alain, qui est en face de moi, Alain Lombard, moi, parce que, comme tu le disais, ton truc, c'était de donner la parole aux autres, mais Jacques Bouvier, par exemple, et les autres, qui sont après allés sur Radio Caroline. Voilà. Pour nous, c'était... On avait une image de la radio. On avait d'abord tous... C'est vrai, des gens qui nous ont donné l'envie de faire de la radio. Pour moi, c'était Julien Lepers, par exemple, Europe 1. C'était un ton nouveau, attention, à l'époque. Hein. Les radios, on parlait avec un ton convenu. Eh bien, maintenant, nous allons écouter. Alors que Europe 1, ils étaient vraiment... ça nous donnait l'envie, hein, comme ça. Hein. Et puis, il y a eu, bien sûr, Max Peigné, Les routiers sont sympas, et autres, des tons beaucoup plus libres. Donner la parole, et puis surtout parler vrai aux gens. Avoir le ton qu'on utilise tous les jours, tout simplement. Et ça nous a donné envie. Et quand on nous a proposé de monter cette radio, on a dit banco, qui est n'importe quelle envie derrière pour ceux qui voulaient monter cette radio, nous on était prêts. Et on a créé totalement, mais totalement de A à Z, la grille, totalement. Les noms d'émissions qui aujourd'hui peut-être existent, j'en sais rien, c'est nous qui les avons créés. On parlait de Radio Bout de Ficelle il y a un instant. Je jure devant le Mupop qu'on a travaillé vraiment avec des bouts de ficelle. Vous savez, les jingles, on n'avait pas de quoi enregistrer les jingles. On avait de quoi le faire devant les micros en direct. Eh bien, on avait créé un jingle, par exemple, qui s'appelait « Quoi que vous fassiez, où que vous soyez, écoutez Radio Barbecue », par exemple. Eh bien, on se prenait une ficelle qui faisait 15 mètres de long, qui allait de la régie jusqu'au chiotte, parce qu'il faut bien dire le mot, et dès qu'on tirait sur la ficelle, on savait que c'était à nous, que le micro était ouvert, on tirait la chasse d'eau, puis on disait, quoi que vous fassiez, où que vous soyez, écoutez Radio Barbecue. C'était vraiment la radio bout de ficelle, mais c'est la vérité. On a travaillé comme ça, et il faut que vous sachiez quand même que ces jingles ont perduré pendant des années. Il y avait des bandes de nuit où on écoutait... Et moi, j'avais l'image de la création de ces jingles. C'était extraordinaire. Un jour, je me demandais si vous pouviez les enlever, ce serait sympa. Quoi. Enfin, bon. Mais voilà, ça a été vraiment une aventure extraordinaire. Le montage des studios, nous, on était des gamins. On avait un métier à côté. Moi, je travaillais au bloc opératoire de Montluçon, j'avais un vrai métier. Mais je venais la nuit ou le jour parce qu'on travaillait tout le temps. Et pour créer, on mettait le feu en mettant les... On a mis le feu plusieurs fois au studio, en mettant les câbles électriques. On n'y connaissait rien. Rien du tout. On faisait une soudure sur la moquette.
Alain Ribière n'est pas électricien, donc on rappelle.
Hein, ah bah ça c'est clair, ça c'est clair. Je suis pas du tout Manuel, plutôt José.
Combien d'animateurs, comment ça marchait l'organisation des RMB au tout départ?
Au tout départ, c'était des gens qui venaient en disant, voilà, moi j'ai un projet. Il faut savoir que les radios à l'époque fonctionnaient avec des thématiques. Moi, je suis un passionné de jazz. Est-ce que vous avez un créneau pour que je fasse du jazz? Eh ben oui, écoute, alors, il faudrait combien? Une heure, ce serait bien, une heure de jazz. D'accord. Alors, tu viens mardi soir, à partir de 21h, là, on a du temps. 21h, 22h, ce serait bien? Ok, d'accord. 21h, 22h, jazz. Ouais, mais moi aussi, je voudrais faire du jazz. Ben alors, attends, vous pouvez le faire une semaine sur deux. Donc, un coup, c'était un coup, c'était l'autre. Il y a eu jusqu'à 115 bénévoles. 115 bénévoles. De bénévoles.
Oui.
Ça veut dire qu'il y avait des gens qui étaient payés, quelques-uns, qui étaient payés pour que d'autres fassent de la radio gratuitement. Il faut quand même le savoir. Mmh. C'était comme ça que ça fonctionnait. Mais nous, on s'en foutait.
Ouais, ouais.
On était là pour faire de la radio, pour parler aux gens. Mmh. C'est que moi, j'ai fait la première matinale. En arrivant, j'avais enjambé, on parlait de la conciergerie du château, le château de Montluçon. Et à l'étage, il y avait un local technique. Et dans ce local, l'émetteur était installé, qui dégageait une chaleur incroyable. Il y avait une porte métallique qui donnait sur une coursive extérieure qui était en plein vent. Et la porte, elle était bouillante parce qu'il y avait de la chaleur. Et on avait un monsieur qui était, quelqu'un qui n'avait pas de logis, quoi, hein, qui dormait là tous les matins. Et il s'endormait contre la porte pour avoir chaud. Et tous les matins, je le réveillais, il s'appelait Maurice, je lui disais, hey « Eh Maurice, viens prendre le café. » Et il descendait. Mais je l'enjambais, j'allais brancher l'émetteur, et là, avec le premier indicatif, c'était un truc vachement remuant, c'était le vieux fusil de François de Roubaix, au piano comme ça, et alors je montais ça tout doucement, persuadé qu'une fois que j'allais remonter, tout le monde m'écouterait. C'est extraordinaire. En fait, où il y avait des gens qui écoutaient, c'était les boulangers. Tous les boulangers écoutaient parce qu'on leur disait un petit mot. C'est vrai, on faisait de la radio grâce à nos voisins, à nos parents qui disaient, hey, tu sais, si tu pouvais me passer ça à un de ces quatre. Et on disait, eh ben Germaine, ma voisine, elle m'a dit qu'elle adorait ça. Eh ben tiens, on se le passe pour elle. On faisait de la radio pour faire plaisir.
Bien sûr.
Et moi, juste pour finir, je vais vous dire, à l'époque, je travaillais au bloc opérateur de Montluçon. De temps en temps, j'allais dans les services. Puis un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, ah, je vous écoute, vous avez le sourire, j'aime votre voix ou n'importe quoi. Et je me suis dit, mais merde. Je rapporte plus, finalement, quand je suis derrière un micro, que ce que je fais là, puisque quand ils arrivent, ils sont en suquet. Quand on les réveille, on leur dit, c'est bon, monsieur, ça ira, bon, ben, on peut le remonter en service. J'étais à ce moment-là, ce doc, hein. Donc, je me suis rendu compte que ça, c'était de l'humain. J'avais besoin de cet humain. Et mes parents, qui se défouillent, ils me disent, mais il a fait un fermier, il est fou, il raccroche tout. Je leur ai dit, j'arrête, je vais faire ça. Pour gagner, trois fois moins, hein. Mais ça faisait rien. Quel bonheur. Quel bonheur.
Le problème avec Alain Ribière, c'est qu'il parle pendant des heures. Donc, on va essayer de le contenir un petit peu. Alors, rapidement, Alain, si je peux dire rapidement quand même, ton meilleur souvenir à RMB à cette époque, c'était quoi?
Bon, je crois que tous ces gens qui venaient et qui n'avaient aucune idée de ce qu'était la radio et qui, d'un seul coup, nous faisaient un truc incroyable parce qu'ils avaient une passion. Ça pouvait être le sport, ça pouvait être la quoi. Si, meilleur souvenir, c'est une blague. J'ai cru qu'on m'avait fait une blague. Le dimanche matin, un jour, je dis, bah tiens, je vais faire la technique, il n'y a personne. Il y avait deux mecs qui arrivent, des gens d'un certain âge, qui viennent faire une émission religieuse. Vous savez, à l'époque, on donnait comme ça la parole. Hein. Et là, c'était une émission catholique. Et le type, je lui dis, votre nom? Il me dit, le prêtre.
Non, le pape, Michel le pape.
Le pape et l'autre, c'était... Non, ils étaient deux. C'était le prêtre et le pape.
Le pape sûr.
Ouais, le pape, le dieu. C'est le dieu et le pape. J'ai cru qu'il déconnait. J'ai dit, il déconne. Non, c'était pas des noms d'emprunt, c'était vraiment leur nom. Il y avait un prêtre parmi les deux d'ailleurs. Mais incroyable. Quoi. Je veux dire, c'était. Eh ben, je crois que ce jour-là, mais je suis parti avec l'adresse, j'ai pas pu m'arrêter de rire pendant tout le temps. Parce que j'ai dit, mais c'est ça fait exprès, ça, quoi. C'est pour la caméra cachée, non?
Tu es parti comment là-bas? Tu es parti rapidement, enfin, un peu en claquant la porte, je crois.
Un petit peu, beaucoup même, oui. Parce que, encore une fois, nous, on faisait de la radio pour le plaisir de ceux qui nous écoutaient, en se disant, on s'adresse qu'à une paire d'oreilles à chaque fois. Mais on s'en foutait qu'il y ait des relations, qu'elles soient commerciales ou d'idéologie derrière tout ça. Comme c'était le cas dans beaucoup de radios. Mais là, pour le coup, un jour, on m'a dit, bah voilà, faudrait faire ça, ou faudrait accueillir un tel. J'ai dit, mais non, bah comment ça, non? Ah non, 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 non. Non, c'est parce que... Ah bah alors, on va se quitter, mais on se quitte tout de suite, même.
Oui, voilà. Faut rappeler que dans les années 80, en effet, la radio, au milieu des années 80, il y a eu un tournant un petit peu politique, hein, quand même, parce que, bon, RMB était quand même très...
C'était une émanation du service info de la municipalité, mais ouais, c'est pas grave,
oui.
Mais il suffit de le dire.
C'est ça. Et en revanche, faut contre-regarder tout ça, il y avait bien notamment Radio Caroline qui est apparue, Jacques.
Radio Caroline qui était, entre guillemets, l'opposé idéologique, qui a été créé pour ça au départ.
Voilà. Mais là aussi, avec des gens qui étaient derrière le micro, qui n'étaient pas forcément des gens qui étaient là pour faire la
politique. Alors moi, quand on m'a demandé de venir, Guy, à l'époque, m'a dit, c'est simple, t'as pas besoin de m'encenser, je serai de me débrouiller tout seul, et t'as pas besoin de m'enfoncer, les autres le feront à sa place.
Ah, tu parles de Guy aussi, hein, c'est ça, qui était l'opposant politique.
Donc il m'a dit, pas de politique,
du maire de Montluçon,
tu fais de la radio, c'est tout.
D'accord.
C'est pour ça que j'ai bossé avec lui, sinon j'y serais pas allé.
Alors Radio Caroline, on en parle maintenant un petit peu. Studio situé donc à l'époque 5 rue du Petit Château, dans le vieux Montluçon là aussi. Jacques, tu as pris les rênes de Radio Caroline. Elle existait déjà depuis quelques semaines, hein, quelques mois.
Elle existait depuis quelques mois. C'était Perbet qui s'en occupait.
François.
François Perbet, voilà. Bon, la radio vivotait un petit peu et Guir aussi voulait un peu plus la lancer. Moi, j'avais la chance d'être déjà disque jockey. J'avais la chance d'être passé, comme je le disais hier, par l'école d'Europe 1, les AC. Donc j'avais une petite formation radio et il m'a dit, bah, écoute, voilà, donne-moi tes conditions, si elles me vont, on démarre. Et j'ai démarré le lendemain et pendant une bonne semaine, pendant 10 jours, je faisais 8h, 22h non-stop derrière le micro parce que j'étais tout seul, le temps de fabriquer une équipe. Et petit à petit, l'équipe s'est formée et pour répondre par avance à ta question, on est monté jusqu'à 100 bénévoles. Il y avait 2 salariés, moi et Christophe, on en reparlera peut-être tout à l'heure,
tout à fait.
Et 100 bénévoles au total, dont Fabrice.
Oui, c'est vrai. Alors, cette Radio Caroline, il y avait toujours un petit vent de folie sur cette radio. Comment l'expliquer par rapport à son nom, que Radio Caroline, hommage bien sûr à la radio pirate. Hein.
Ah, c'est un hommage à 64, effectivement, à la radio anglaise qui émettait du bateau, qui émet toujours d'ailleurs, cette radio, j'ai vérifié, elle émet toujours. C'était le clin d'œil à l'histoire de la radio. Mais c'est vrai qu'on était très, 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 très libre. Je ne sais pas, RMB, mais nous, on était vraiment très, très libre. Tant qu'on restait poli, on pouvait faire tout ce qu'on voulait.
Ouais. Du genre, des jeux de fous de
Du genre, j'avais fait un sketch un après-midi sur les marionnettes.
Ah bon ?
Les marionnettes et les pantins, voilà, où j'avais expliqué qu'il y avait une étagère. Alors, sous l'étagère de gauche, il y avait des 4L. Sur l'étagère de droite, il y avait quelques romans. Sur l'étagère du milieu, des instruments de musique. Tout en haut, il y avait un pantin. Et puis en bas, il y avait des marionnettes dans une caisse qui regardaient le pantin en disant « J'aimerais bien un jour monter sur les étagères aussi. » Tu vois le rapport ? Et ça avait fait énormément rire aussi. Il m'avait dit « J'ai beaucoup apprécié ton analogie sur la politique. »
Alors, il y avait toujours quelque chose de différent, notamment dans l'habillage aussi, c'était un petit peu fou. Les pubs aussi.
Alors, les pubs étaient, voilà. Alain, tout à l'heure, parlait des pubs. On en faisait à tour de bras. Dès qu'on trouvait une voix, dès qu'on avait quelqu'un qui était d'accord pour parler dans le micro, pour dire Radio Caroline, on y allait et on faisait n'importe quoi avec sa voix. Des fois, c'était vraiment n'importe quoi à l'antenne, d'ailleurs.
Alors, j'ai quelques extraits, notamment, parce que j'ai retrouvé une vieille bande de l'époque. Donc là, j'ai quelques casseroles quand même.
Ouais,
hein.
Allons-y.
Alors, ce sont des pubs de l'époque, mais par contre, les n'existe plus, donc ce sont vraiment des archives. Par exemple, Jacques Lisquerie, hein, on l'écoutait déjà hier, mais on va se le refaire pour tout le monde.
La Lisquerie, Faubourg Saint-Pierre à Montluçon, le plus grand choix. La Lisquerie, Faubourg Saint-Pierre, Montluçon.
Voilà, ça c'est le genre de pub qu'on écoutait, c'était rigolo.
Ah, c'était percutant. Ouais, ça vaut des pubs d'aujourd'hui.
Oui, carrément.
Oui, tu as tout à fait raison.
pour les jingles, j'ai retrouvé un chanté pour Radio Caroline et tu vas reconnaître la voix de suite.
Ça sonnait, je me réveille devant une télé, déjà jour. J'allume la radio FM et j'écoute Caroline. Je sens.
Non.
C'est à Monsieur Plastique ?
Pardon ?
C'est à Monsieur Plastique ?
Non, c'est Stéphane Caillou.
Ah, d'accord, okay, c'est vrai qu'il chantait pas mal. Il avait une jolie voix.
Ouais, Stéphane exact. Caillou qui a tenu Les Enfants Terribles, ouais, le restaurant sur Montluçon, qui est parti sur Limoges récemment, qui est parti bien sûr de l'équipe de Radio Caroline. Il y a Mimi qui est à côté de toi d'ailleurs, on va peut-être laisser un peu la parole, et puis il y a Laurent aussi à côté. Vous souvenez à vous de Radio Caroline ?
Ouais, le
grand, grand souvenir. Moi, j'animais, j'étais très parade. Ouais. Donc, moi, je faisais le top 50 en local. Ça s'appelait Top Caroline.
Ouais.
Ouais, c'est un super.
Le Top Caroline.
Voilà, c'était le meilleur vente de 45 tours de la région.
D'accord.
Tout simplement copier le top 50.
C'est ça. C'est, tu es allé voir l'Iscurie.
Ouais, le tour
des Lisquaires.
Bah, chez Checheux.
Chez Checheux, ouais.
La Disquerie, le tour des supermarchés, parce qu'à l'époque, ils vendaient les 45 tours. Il y avait le classement. Voilà. Et on prenait ça. Tout le monde était content. Tout le monde voulait savoir qui allait être le numéro 1 la semaine d'après. Enfin,
voilà. C'était samedi, c'était le. C'est ça, je crois.
Toute la semaine,
ouais.
Vendredi de 18h à 19h.
Ouais, c'était important ce créneau-là aussi. Hein, parce qu'on on rappelle, à l'époque, il n'y a pas grand-chose sur la bande FM, hein, à part ces radios libres. Et puis sinon, il y avait les grandes ondes avec les radios périphériques. Hein,
Ouais, puis il y avait un truc important à mes yeux, c'est qu'on présentait le disque, l'artiste. Mmh. Pour dire maintenant, tu allumes ton portable, au bout de 30 secondes, tu sais qui chante. À l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça.
C'est vrai.
Donc tu étais obligé de présenter l'artiste. Donc effectivement, on parlait au début, au milieu, à la fin. Les auditeurs disaient, merde, j'ai pas pu enregistrer. Ah oui, mais on est là pour vous présenter les disques.
Et puis on découvrait la musique à la radio hein, aussi à l'époque. Hein. La radio était très précurseur dans la musique. On la découvrait la première fois à la radio, en fait. On écoutait les nouveautés à la radio.
Et il y avait une chose aussi, et là, c'est pas toi, Jérôme, qui va dire le contraire, c'est qu'à l'époque, on venait tous pratiquement de milieux un peu DJ,
ouais,
pour certains, et que les musiques qu'on passait à la radio, on les écoutait en boîte.
On les écoutait en boîte, c'est ça, ouais.
Vraiment, il y avait des slows qu'on passait à la radio qui passaient en boîte. Il n'y en a plus maintenant, mais c'est important. Mais il y a une chose aussi importante, c'est que tout doucement, les maisons de disques se sont dit, mais peut-être... Ça vaut le coup de passer par ces petites radios là et de leur envoyer des démos. Alors on recevait des disques, voilà, mais ça a été très lent. Au début, on les achetait. Hein. On allait même pour des imports, on allait à Londres, ainsi de suite. Et un pote qui revenait. Et d'un seul coup, c'est libéré. Et là, on passait l'avant-première. C'était les Maxi 45 tours, c'est ça, Jérôme?
Exact. Les versions radio. Ça. Les versions édites radio, justement, au lieu de faire 3
qui sont arrivées d'ailleurs après les Maxi 45 tours, hein, parce qu'à l'époque, il y avait que ça. Hein, parce qu'il faut quand même se rappeler que techniquement, à l'époque, une radio, Alain en parlait tout à l'heure, c'était une table de mixage et deux platines vinyles. Et un lecteur de cassette pour passer les jingles, voire... Ensuite, un Revox, un gros magnéto à bande qui servait à faire la nuit.
La nuit, ouais.
Et tous les jingles, souvent, étaient faits avec ces appareils-là, où on coupait des morceaux de bande, on passait des heures à faire des montages. C'était incroyable.
Alors, Jacques, justement, toi, tu fais beaucoup de montages. Hein,
J'adorais ça, ouais. C'était un de mes péchés mignons. Voilà. Ouais,
tu as pu faire plein de montages. Tout l'habillage de Radio Caroline, c'est toi qui l'as fait, de toute façon.
Au départ, oui.
Jacques, il a coupé de la bande.
Ah, mais parce que moi, je pensais montage, je n'avais pas ça du tout à l'esprit. Hein. Quand on parlait de montage.
Oui, oui.
Non, parce qu'il faut quand même dire une chose, c'est que quand on faisait de la radio, on faisait plaisir aux gens, mais on se faisait drôlement plaisir aussi.
C'est sûr.
C'était un réservoir, les gens venaient nous voir, mais tout le monde, beaucoup de jeunes filles aussi venaient nous voir. Hein. C'était les voix, on voulait les couvrir. Hein. C'est un peu quelqu'un qui descend de scène, il a tout de suite une adresse pour aller prendre le café. Il ne faut pas rire avec ça, enfin, c'est très important.
C'est vrai, tu as raison.
C'est une autre époque, mais il faut quand même le dire. Donc on parlait bien de montage numérique, enfin, de bande.
C'est clair, non. Tu parlais de souvenirs aussi, on en parlait tout à l'heure autour de la table, c'était la foire exposition.
Oui.
Ça, c'était des super souvenirs. Et j'en ai un, notamment pour la Foire Exposition. Le jeu consistait à aller voir le stand d'annonce de la Foire Exposition pour faire appeler telle ou telle personne au stand de la radio pour que le nom de la radio soit cité dans tout le truc. On faisait ça tout le temps. Je pense qu'RMB, vous faisiez pareil. Et on s'amusait à faire ça toute la journée. C'était génial, quoi.
Mimi, un petit mot, Mimi, parce que du coup, tu as rencontré Jacques,
méfie-toi,
notamment dans les studios de Radio 3, toi, c'est ça hein.
Je ne l'ai pas rencontré dans les studios de Radio 3, je l'ai rencontré en discothèque quand il était, enfin, un soir où il bossait. Mais effectivement, comme Jacques est quelqu'un qui aime faire partager ses passions, et ben, je me suis retrouvée dans des locaux de radio, en l'occurrence Radio 3, et puis après Radio Caroline.
Il t'a exploité.
Je continue, j'avoue.
Mais quelle belle période, parce que moi je découvrais un milieu que je ne connaissais pas du tout, qui était aux antipodes de mon activité professionnelle. Mm-hmm. Et que, bon, effectivement, même si les nuits étaient courtes, parce que à partir de 22h, il fallait enregistrer les fameuses publicités qui passaient en permanence, qu'il n'y avait pas beaucoup de volontaires.
Oui.
Je me retrouvais jusqu'à 1h ou 2h du matin à enregistrer des spots. Quelquefois, voilà. Je sais que tu en as retrouvé un ou deux.
Mais j'ai quelques casseroles, oui.
Bah, tiens, justement.
j'ai quelques casseroles. Alors, notamment, j'en ai une. On l'écoutera plus tard parce que c'est pour Europe 2, donc on verra un peu plus tard.
Mais sinon, mais... Bon, c'est une super période.
Oui.
Avec une ambiance de fou, des rencontres toutes plus formidables les unes que les autres. Des gens, d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, hein. Des liens d'amitié qui sont créés très forts. Hein. Et voilà, que de bons souvenirs.
Ouais. Tu as des souvenirs de showcase, je crois aussi, d'artistes qui venaient dans la région.
Tout à fait, parce que bon, à cette époque, il y avait des artistes qui se déplaçaient facilement et qui, pour faire leur promo, venaient bon, tant dans les discothèques, mais aussi dans les radios locales. Mmh. Et c'est vrai qu'on s'est retrouvés. Ben, moi, je me suis retrouvée un petit peu parce que j'étais la compagne de Jacques à manger au restaurant ou à partager des soirées, il te l'a dit hier, effectivement, une soirée privée en discothèque avec Jean-Jacques Goldman à La Défense, ce qui était fort sympa. Aujourd'hui, je ne sais pas si ça serait possible avec les artistes de maintenant, mais c'est vrai qu'on a fait des choses fantastiques.
Il y a un vrai devant de liberté à l'époque, et c'est vrai qu'en plus, les voix féminines étaient assez rares, et je pense qu'en effet, Mimi, Jacques a dû se dire, Mimi, viens faire des voix à chaque fois, là. Ça doit être assez fréquent, je pense. Hein.
Il y avait une société sur Paris, je pense que vous vous souvenez, qui s'appelait Katia Promotion,
oui.
Qui avait plein d'artistes.
Qui existe encore, hein.
Qui existe encore, génial. Et il y avait moyen de les avoir des fois à pas cher. Et je me souviens, alors ça me fait penser à Association d'idées, à une soirée un peu spéciale qu'on avait organisée pour Radio Allier à l'époque. On voulait faire quelque chose pour se faire connaître. Et Alain a une idée, il dit, on va faire une... Ah oui, tu vas voir où je vais venir. Alain, il dit, on va faire une super soirée laser, parce qu'à Montluçon, à laser, personne n'en avait jamais vu. Donc on a dit, on fait une soirée laser. Seulement, pour faire venir un laser à Montluçon, ça coûte très cher. Donc on s'organise avec la discothèque à l'époque où je travaillais, qui était la chorale, pour qu'ils nous laissent la moitié des entrées. Quand Alain a fait le premier chèque pour la soirée laser, le chèque était payé. Quand Alain a fait le deuxième chèque, au moment où il l'a fait, il était en bois. Mais heureusement, les entrées ont couvert le montant de l'après-midi, parce que c'était le dimanche après-midi, laser. Mais c'était chaud, chaud, chaud. Et je me souviens que le même jour, il y avait en concurrence une discothèque, la Siesta à l'époque, pour ne pas la nommer, qui faisait aussi un spectacle. Et les nuits qui ont précédé, on allait poser nos affiches, on se rendait compte au petit matin qu'ils étaient passés derrière, qu'ils avaient recouvert. Donc la nuit d'après, on recouvrait. On attendait qu'il passe, on recouvrait ce qui était recouvert, et on a fait ça pendant plusieurs jours, jusqu'au jour où, on va dire la vérité, cette discothèque faisait venir les affiches par train, et on avait dans nos animateurs quelqu'un qui bossait à la SNCF, et à un moment, les affiches, eh ben, elles ne sont pas arrêtées à Montluçon. Elles ont continué.
Ah zut alors.
Et on a pu laisser nos affiches pour la soirée laser.
Il y a prescription.
Voilà.
Il n'y a pas de souci. Alors il y a eu des bons moments bien sûr en radio et puis des moments un peu plus compliqués comme celui-ci. Écoutez.
Chers amis, bonjour. Télédiffusion de France exige que nous cessions nos émissions en attendant l'autorisation définitive délivrée par la haute autorité de l'audiovisuel. Certes, une pareille injonction, exécutoire sous 24 heures, nous crée des difficultés importantes, met en péril l'existence même de notre radio et donc la situation de nos animateurs salariés.
Alors Jacques, explique-nous qui parlait à l'instant.
Nous avons résolu de respecter...
Alors, c'était le président de l'époque, on en parlait tout à l'heure, Guy Rossi. C'est vrai que TDF voulait remettre un peu d'ordre dans les fréquences et nous ont demandé d'arrêter. Et si je me souviens bien, RMB, vous avez continué.
Alors là... ils n'ont pas changé de fréquence, eux.
Oui, mais ils ont continué et nous, on a changé de fréquence. Ouais. C'est peut-être... pour ça que sur le tampon de Radio Caroline, la fréquence a été enlevée.
Ouais, c'était l'ancienne fréquence.
L'ancienne fréquence, voilà.
Là, c'est 92.2, je crois, un truc comme ça, et 96.2, pardon,
voilà.
Qui est passé en 97.1, donc suite à la nuit bleue qui a dû y avoir en 88-89, c'est ça. Hein.
Exactement, voilà. Pile poil.
Alors, pour expliquer à nos auditeurs, en fait, la nuit bleue, c'était en fait, vu qu'il y avait beaucoup de radios et c'était un peu le bazar, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de... Enfin, il fallait faire le ménage, en fait, ni plus ni moins, c'est ça. Hein.
Tout le monde se chevauchait, on était sur les ondes de quelqu'un.
Mais il faut quand même rappeler une chose, sans rentrer vraiment dans le domaine technique, à l'époque... aujourd'hui, par exemple, si vous avez une fréquence, la fréquence, par exemple, majeure 92.3
RJFM,
aujourd'hui, quand vous êtes sur le 92.3, ça ne peut pas bouger. Parce qu'il y a des calages au quartz, qu'on appelle. Hein. C'est-à-dire que vous donnez l'autorisation d'être sur tel canal. À l'époque, ce n'était pas comme ça. C'est-à-dire que c'était fluctuant. Ça pouvait bouger un petit peu. C'était 92.3, mais ça pouvait être 2 ou 1, ou monter jusqu'à 15.
Ça dépendait si l'émetteur était chaud, en fait.
Mais c'est vrai, en plus. Mais c'est vrai, il fallait qu'il se cale. Mais c'est ça, en plus. Hein. Et donc, il y avait un chevauchement parce que les fréquences étaient tellement rapprochées. Et puis, il y avait aussi ceux qui avaient une puissance qui n'était pas autorisée.
C'est ça aussi, oui. Il y a beaucoup de puissance pour certaines.
Eh oui.
Monsieur Chalaigne nous racontait une petite anecdote juste avant, là, qui sur Limoges, où vous aviez une personne qui avait un émetteur assez impressionnant.
Oui, c'était en Haute-Vienne. C'était pas tout à fait Limoges, mais ça couvrait largement Limoges, parce que c'était une radio qui avait poussé son émetteur à 10 kilowatts.
Ah, 10 000 watts.
Et qu'il fallait, on a essayé de lui faire comprendre qu'il fallait arrêter ça, parce qu'il gênait un certain nombre d'autres radios du secteur. Et ça a été assez long, il a fallu faire venir les gendarmes, saisir le procureur de la République pour qu'il cesse.
Alors, il faut quand même dire que les émetteurs, ils avaient une puissance autorisée en fonction de l'endroit où ils se trouvaient. S'ils étaient en zone urbaine, ils avaient moins de puissance, donc qui était autorisée. Hein, ça devait être jusqu'à 500 watts, je crois, quelque chose comme ça, pour les petites radios. Et jusqu'à 1 kilo, donc 1000 watts, quand elles étaient en dehors. Il n'y avait pas de 50 000 façons d'émettre. Il y avait l'émetteur propre qu'on achetait, qui valait, à l'époque... Pour les plus simples, c'était aux alentours de 100 000, 150 000 francs, enfin 10 ou 15 briques hein, pour l'époque, véritable. Hein. Ou TDF, Télédiffusion de France. Et là, il faut payer une patente. C'est cher, il faut avoir les moyens de le payer. Et peu de gens, finalement, avaient les moyens d'être sur ces pylônes TDF. Alain, vous aviez votre propre, à Radio 3, Radio Allier, vous aviez votre propre émetteur. Qui était au-dessus de la radio.
À Beaumont, non ?
Il y en a eu à plein d'endroits. D'ailleurs.
Oui, je crois. Oui.
Ça s'est un peu en fonction des situations.
Ça a beaucoup changé d'emplacement.
Non, mais après, ça s'est terminé sur.
Uriel, qu'un sur Uriel.
Beaumont.
D'accord. Ça, voilà, c'était là. Après, ouais. Au début, c'est vrai. Puis les émetteurs étaient plus petits. Après, on a pris un peu plus gros. Puis ainsi de suite. Alors, il fallait.
Lâcher l'occasion.
Ouais, parce que ouais, voilà. Profiter pour aller. Ouais.
Radio Caroline était où l'émetteur, tiens ?
L'émetteur, il était en haut de Buffon.
En haut du fond, oui. D'accord, sur le château d'eau.
Non, sur un pylône, sur un terrain privé, sur le pylône.
D'accord. Et RB, à l'époque ?
Bah, je crois que c'était aussi du côté de Buffon. Voilà. Hein, il y avait
l'école.
Et toi après, vas-y, Didier.
Enfin moi, dans ce que j'ai connu, parce que je suis beaucoup plus jeune en fait. Il y avait un.
Tu l'as fait.
Ouais, bien sûr. Il y avait un émetteur dans le grenier de l'hôtel Charnizet.
Mais moi, ça.
Oui, exact. Au début, il était là, l'émetteur.
Voilà, il y avait très longtemps.
Mais après, il était sur l'ancienne école de Châtelard.
Oui, c'est ça, Châtelard.
C'est toujours là, je crois d'ailleurs.
Il est toujours là, il me semble.
Jacques, tu voulais dire ?
Oui, non, simplement. Et après, quand on est passé à Europe 2, on avait les moyens, nous. On est passé chez TDF.
Ouais. Chez TDF, oui.
À Radio 93, l'émetteur était au-dessus du collège aussi. Hein. Ouais. D'ailleurs, l'émetteur était posé sur l'armoire.
Et par rapport à l'émetteur qui était, nous, à l'école de Châtelard, il y avait c'était un bâtiment municipal. Hein. L'école était désaffectée. Et donc, il y avait un gardien, un mec qui était logé là. Et donc, il profitait de la chaleur de l'émetteur pour faire sécher des jambons. C'est des jambons du genre de Bayonne, quoi. Et donc, quand on tombait en rade, on y allait avec les couteaux, puis on se taillait des belles tranches. Et on allait très souvent.
C'est original, ça, quand même.
On allait très souvent voir si tout allait bien, l'émetteur.
Comme quoi, le sketch de la fesse qui fait griller les saucisses sur l'antenne n'est pas tout à fait faux.
Hein. Non, tu vois.
C'est vrai qu'à l'émetteur, ça chauffe énormément. Didier, justement, on va reparler d'un petit peu de RMB à cette époque. Alors, toi, tu as commencé quand tu étais responsable d'antenne à partir de quand ?
Responsable d'antenne beaucoup après. Je suis arrivé après l'ère Ribier.
Oui, c'est ça.
Ça n'a pas été facile. Et je vais vous parler juste un tout petit peu de mon histoire. À la base, je suis mécanicien, bagnole, et puis après l'armée, je suis chauffeur poids lourd. Et là, on est en 81. Et donc, ça veut dire l'ouverture des ondes. Je suis de la région parisienne. Et donc, dans mon camion, toute la journée, j'écoutais et je me disais, j'aurais plutôt mis ça comme morceau, j'aurais plutôt dit ça. Voilà, c'est tout. Ça, c'est comme ça. Mais voilà. Mais bon, je suis chauffeur. Et puis.
Mais parce qu'il y a une musique quand même, hein, on le dit. Hein, quand même.
Ah ouais. Et puis moi, c'est ça. La musique, quoi. Donc ça m'éclatait. Mais après, la passerelle, ça j'en sais rien. Et puis après j'ai fait des animations en grande surface. Vous vous rappelez quand c'était l'anniversaire de la grande surface, il y avait les Charlots, il y avait Karine Chéril, il y avait et je suis venu à Montluçon, je suis venu l'ancien magasin qui était route de Guéret où il y a
l'ancien But.
Voilà, je sais pas si on pouvait dire ça. L'ancien But, voilà.
Avec ça se situe pour tout le monde.
Avec Alice Denat et puis le soir on sortait et j'ai rencontré la mère de mes enfants au piano mécanique. Tout à l'heure vous parliez de la boîte à disques, hein, donc c'était au-dessus, quoi. Donc je, voilà. Et puis quelques mois après, je suis venu habiter avec elle. Et puis, mais voilà, donc c'est tout. Moi, je connais pas Montluçon, hein, à l'époque, même pas du tout. Et puis un jour, elle fait un stage en entreprise et elle me dit, faut que tu m'emmènes. Donc je l'emmène. Moi, encore une fois, je connaissais pas. Je vois l'enseigne de la boîte, mais comme je suis mécano. Je vois RMB, mais dans ma tête, et c'est pas des conneries, hein, ça veut dire roulement mécanique à billes. Donc le mec est bien attaqué, quand même, hein.
Piqué, quoi.
Voilà. Et le midi, je vais la chercher, et je lui dis, alors, c'est bien. Elle me dit non, elle était timide, elle me dit non, c'est pas bien, c'est une radio. Là, j'ai compris. Il se passait un truc dans ma vie, quoi, comme un alignement de planète. Et j'y demande s'ils veulent pas quelqu'un, quoi. Et donc, elle leur a demandé, le lendemain, ils me disent, on cherche quelqu'un pour faire le ménage. J'avais appris que Francis Aigut sur RTL avait commencé au Standard. Un jour, il avait dépanné. J'ai dit, vas-y, je fais le ménage. Et puis, après, je me démerderai, quoi. Et puis, finalement, la personne qui faisait le ménage a été prolongée. Donc, ils m'ont dit, non, c'est mort. Mais deux jours après, ils ont appelé pour dire, mais on cherche un animateur. Je venais de gagner 3 ans de temps. Et donc, je me suis présenté, j'avais révisé la musique et tout ça, c'est pas forcément ce qu'on m'a demandé. On m'a dit, tu commences samedi matin, ok. J'avais jamais fait ça de ma vie. Hein.
Oui.
Et donc, la tranche horaire, c'était 5h, 14h.
Ah oui, quand même.
Ah ouais, ouais. Quand l'autre
d'après. Fallait aller le sandwich, hein.
Ouais. Quand l'autre d'après, il arrive, 2 minutes en retard, t'as juste envie de le tuer, quoi, parce que t'en peux plus, quoi. Donc, j'ai fait ça, on peut même pas dire les matinales, matinées, voilà. Et après, on va, une petite anecdote, et puis après, on parlera de la question. Donc, moi, j'avais du mal à me lever à cette heure-là, toutes les 24 heures, pas forcément le temps de prendre une douche et de faire tout ce qui est nécessaire avant d'aller au taf. Donc, quand j'arrivais le matin, le premier truc, c'était de prendre Pink Floyd. Shine on your Crazy Diamond, 18 minutes. Ça me laissait un peu de temps pour aller me préparer psychologiquement et physiquement, voilà, par exemple. Et donc voilà, je suis rentré comme animateur. Et puis c'était l'après de ce qu'elle avait créé, la radio, oui. Donc l'après Alain, par exemple, Alain, ouais. Et puis d'autres. Et donc là arrivaient les emplois aidés. Donc à l'époque c'était des TUC, oui. Travaux d'utilité collective. Donc moi j'ai été recruté en TUC, c'était bien, mais malgré tout c'était 1250 francs par mois, c'était pas grand chose. Donc fallait bien vivre. Alors je leur ai proposé un jour de, je me renseignais, la pub, qui c'est qui s'occupe de la pub? Et personne, une agence de pub, mais qui, voilà. Alors ils m'ont dit, essaye, on file 40% de com à l'agence de pub, essaye, si ça marche, on te file 40%. Personne n'y croyait, moi non plus, mais ça a marché. Je me suis fait des couilles en or. Non, c'est pas vrai. Et donc, j'ai commencé comme ça. Et si on replante le contexte, on va dire, géopolitique.
C'est un peu la guerre, hein, entre Radio Caroline et RMB à l'époque. Là, hein.
Alors moi, je rappelle que je ne suis pas d'ici, donc je sais même pas, je sais même pas qu'il y a des radios entre guillemets, pas forcément encartées, mais avec des
couleurs,
des tendances. Ouais, je sais pas ça. Voilà, ça. Voilà. Donc moi, j'ai découvert ce truc-là, et puis après, je connaissais pas les gens. J'ai appris. Alors forcément, quand on arrive après, tu l'as dit, il y a eu un clash avec Alain. Donc moi, on m'avait dit, tu te méfieras de ce mec-là, c'est un con. Et après, j'ai fait sa connaissance et je vous le confirme. C'est bien un con.
Pour vous dire, je l'ai même débauché après, il est venu travailler avec moi.
Voilà. Donc c'était. Ce que je veux dire, c'est que c'était pas facile de vendre de la pub par rapport à l'image véhiculée à l'époque par la radio dans laquelle je travaillais. Et donc, en fait, il a fallu que, entre guillemets, je me vende, moi, sur la confiance pour que petit à petit, voilà, donc j'ai, dans un premier temps, pérennisé mon emploi, et cet emploi, et après, les 60% qui le restaient, ça a permis de créer d'autres emplois. Donc, on est passé à une autre ère. Mais je ne suis pas, contrairement à la majorité d'entre vous autour de la table, un pionnier. Je suis arrivé 84, c'était il n'y a pas très longtemps après, mais les choses étaient déjà lancées.
D'accord. Jérôme, un petit mot par rapport à cette époque-là?
Oui, moi j'ai connu Didier à cette époque-là, puisque j'étais, moi mon parcours, il est un petit peu différent, parce que je pense que je suis passé partout, sauf à Radio Caroline. Voilà. J'ai commencé à Radio 93, j'avais 12 ans, la première fois que à l'école, on m'a emmené au collège Jean-Jacques Soulier, il me dit il y a des ateliers radio, et là ça a été une espèce de révélation. J'ai trouvé ça génial, tout comme toi Alain, le fait que les gens t'écoutent, que tu puisses parler, leur amener quelque chose, leur amener surtout du plaisir, parce que effectivement ce côté musical aussi était quand même plutôt nouveau, et puis il y avait un truc aussi dans la FM, la qualité du son, parce qu'on écoutait avant les grandes ondes, c'est quand même moyen. Là, on était avec une qualité exceptionnelle, on était en stéréo, enfin, c'était quand même juste génial. Et après, bah, j'ai continué mon parcours. Et en fait, moi, j'ai fait de la radio, mais j'ai fait surtout beaucoup de voix, en fait. Et c'est par ce biais-là que j'ai connu Didier à l'époque, puisque j'ai poursuivi ce que faisait Jacques, en fait, le mélange disque jockey et animateur radio. Et en fait, on l'a fait un peu perdurer à l'époque à RMB avec Didier, qui avait, par modestie, pas parlé, mais il avait pris un peu la direction, il avait carrément pris la direction de la radio à la fin, enfin à cette époque-là. C'est lui qui gérait.
Ouais, ça a duré la direction 6-7 ans à peu près.
Ouais, ça a duré un moment, et puis en fait, t'as amené aussi beaucoup de choses nouvelles. Enfin, il y avait beaucoup d'ouverture en fait, d'ailleurs dans les musiques plutôt jeunes.
L'idée c'était de se dire voilà, je suis arrivé là totalement par hasard, j'aurais peut-être pu être pris à Radio Caroline, mais ben, j'en sais rien. Ben, voilà, c'était voilà, le hasard. Hein, voilà.
Toutes les portes de toutes les radios étaient ouvertes.
Oui, c'est ça. Ah, bah,
du coup j'ai perdu ce que je voulais dire, donc ouais, je suis arrivé là un peu par hasard, et c'est pas forcément qu'on a professionnalisé, parce que moi j'avais aucune formation. Toi tu as fait une école, Jacques, d'animateur.
J'avais cette chance,
voilà, ouais. moi je découvrais les choses, donc on essayait, et même tout à l'heure on parlait de ça, dans le bureau il y avait les classeurs avec les tarifs, les grilles de programme, et puis en dessous il y avait un fer à souder, de la soudure et des diodes pour réparer l'émetteur.
Oui, c'est ça,
le jambon, ça c'était on faisait un peu tout.
De toute façon, c'est la passion qui nous animait, et puis qui nous a toujours animés. C'est la même qui anime aussi les bénévoles qui sont aujourd'hui. Moi, je me rappelle d'Alain, parce que j'ai loupé cet épisode, mais j'ai été TUC ou SIVP. Je pense que c'était un de mes premiers boulots à Radio 3, et c'était assez génial, puisque là, c'est là que j'ai découvert en fait le montage avec des magnétos à bandes. C'est quand même assez exceptionnel, puisqu'à l'époque, il n'y avait rien. Je me disais, mais comment les mecs font pour arriver à mettre 3 musiques ensemble, poser leur voix par-dessus, mais comment ils font?
Et j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Je voulais dire que on m'a proposé de prendre la direction parce qu'un directeur est parti. Je me sentais pas, je savais pas si j'en avais la carrure, j'aurais dit ok, mais on va dissocier l'information des programmes. L'information c'était l'information et les programmes c'était les programmes. Donc les programmes étaient beaucoup musicaux. Alain parlait tout à l'heure des bénévoles, c'était pareil. T'es branché.
Les thématiques.
Des thématiques. Et donc si tu te mettais devant la radio, si tu voyais deux mecs qui arrivaient avec la banane et en scooter, c'était du rockabilly.
On va écouter du rock. Ouais.
Voilà, c'est ça. Il y avait du jazz aussi. C'était bien. Et c'est aussi ce que disait Alain. C'était de donner la chance à des, enfin la chance, j'en sais rien en tous les cas, la possibilité à des jeunes qui avaient des passions. Ils étaient mieux là à faire de la radio ou à Radio 3 ou à Caroline avant que traîner dans les rues. Donc c'était ça aussi. Puis ça nous a enrichi les rencontres et tout à l'heure, quand on s'est retrouvé là après beaucoup d'années, il y a de l'émotion quand même, parce que c'est toute une partie de notre vie. On a mis du temps à se rencontrer, même Alain. Je voulais rendre un peu un hommage à Alain parce qu'il a fait ça un peu. Si, ça mange pas de pain pendant que t'es encore vivant, parce qu'après tu vas canner et on pourra plus en parler. Et non, mais voilà, Alain avait des idées comme ça. Il a vraiment auto-financé sa radio lui-même. Et puis après, j'avais trouvé original l'idée de faire un fast-food à côté de la gare. Je crois que c'était.
C'est là que j'ai commencé.
Ouais, rue de Bruxelles, et de se dire il y avait la radio qui était dedans, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, parce que j'étais gourmand après on a retiré les jambons là-haut, donc j'ai bouffé, donc voilà, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et on s'est tous rencontrés, Alain Ribière, on s'est rencontrés au Printemps de Bourges. Et voilà, et tu m'avais invité à manger. Comme quoi, toujours la bouffe, ça revient. Voilà, on s'est croisés comme ça. Jacques, on s'est pas.
Vous n'avez pas mangé ensemble.
De nom, voilà. Mais je savais aussi que c'était un con comme les autres, puisqu'on m'avait dit, c'est plus des cons.
Mais rassure toi, j'ai pas changé.
Je suis rassuré.
Jacques, tu voulais ajouter quelque chose, il me semble. Non, on parlait tout à l'heure de publicité. C'est vrai que nous, on avait une carte magique pour la publicité. Elle s'appelait Evelyne.
Oui.
Une jolie blonde. Et c'est vrai qu'on ramassait beaucoup de pubs.
Donc, moi, j'étais en face d'Evelyne.
Oui,
t'imagines le honte
quand tu sortais les rames.
Si vous avez l'image, vous comprenez. On va parler, tiens, un petit peu de Radio Fréquence Néry, parce qu'il y a Montluçon, mais il y a aussi d'autres radios. Tiens, Laurent, on va nous en dire quelques mots. Tu sais pourquoi a été créée une radio sur Néry, toi?
Non, je sais pas.
Gilles Almeida.
Alors, on va en revenir encore à Radio Allier, Radio 3. Peut-être,
je pense aussi, oui.
Voilà, c'est ça. Moi, j'étais avec Alain, et puis un beau jour, ben, j'ai dû partir travailler dans le Sud. Alain a continué, et dans ses animateurs qui sont arrivés, il y a un Gilles Almeida, qui a travaillé donc pour Alain pendant... bénévolé pour Alain pendant quelques années. Et puis un beau jour, il s'est dit, je vais monter ma propre radio. Et effectivement, il a trouvé la possibilité de faire Radio Fréquence Néry.
D'accord.
Tout simplement.
Comme ça, c'est... Donc du coup, si on se remet dans le contexte de l'époque, il y avait donc RMB.
N'oubliez pas Radio Savigny-Bernay.
Oui, je vais y venir. Il y avait Caroline. Et en plus, Néry. Donc c'était vraiment l'apogée de la radio. Là, on était en quoi, 85-86 hein.
C'est ça.
Ouais. Hein, c'est ça.
Ouais, ouais. Ça n'a pas duré bien longtemps, parce qu'après, Caroline a basculé Phil.
Oui, mais ça, c'est un peu plus tard, ça, oui. Mais en fait, en même temps, il y a eu comme, enfin, trois grosses radios avec à chaque fois une centaine d'animateurs, en tout cas pour RMB et Caroline. Et je sais pas, Néry, combien
C'était moins nombreux.
Une trentaine, je pense.
Oui,
hein.
oui, trente.
C'est-à-dire qu'en fait, on avait au moins 230 animateurs sur le bassin, dont le son est quand même, c'est quand même pas rien.
C'est... Animateur potentiel.
Potentiel, oui.
230, Yann Egan ou Julien Lepers. Quoi.
Enfin, à cette époque-là, il n'y avait pas les réseaux sociaux, pas Internet, rien du tout. Hein. C'était un moyen de communication quand même assez impressionnant,
c'était
la radio.
Un moyen de communication de masse.
Oui, c'est ça.
Et c'était un des premiers, finalement.
C'était ça.
On allait acheter son journal, on choisissait le canal de la télé, il y avait trois chaînes. Hein. Et puis, il y avait la radio qui, comme le disait Jérôme, il a eu raison de spécifier, il y a eu la qualité d'un seul coup. C'est-à-dire qu'au-delà de la qualité de l'animation, parce qu'on découvrait, il y avait cette qualité d'écoute. Et quand on est passionné de musique, de rock notamment, de musique classique ou jazz, et quand d'un seul coup, on peut se mettre en stéréo comme ça, un son sans trop de souffle, c'est vrai, et que les gens apprennent au fil des semaines à fermer un peu leur bouche pour laisser passer la musique. Quel bonheur, quel bonheur. Je voudrais quand même ajouter un truc. Tu as dit tout à l'heure, Jérôme, j'ai commencé, j'avais 12 ans à Radio 93. Et bien tu partages quelque chose d'important, c'est avec Fabrice qui a de l'âge de 12 ans. Je l'ai vu débarquer, 12 ans. Je l'ai vu débarquer à côté de moi, puis il a dit, bonjour monsieur, je voudrais juste voir comment ça se passe, ça m'intéresse. Alors je lui ai dit, ben vas-y, installe-toi. Et puis j'étais derrière la table de mixage, en train de faire l'animation. Et puis au bout d'une demi-heure, il était là, il bougeait pas. Hein. Et puis au bout d'une demi-heure, il m'a fait, je sais plus, il y a un truc qui part pas, peut-être une platine qui part pas. Et il me fait, je crois que vous avez oublié d'enlever la pré-écoute là. Alors j'enlève la pré-écoute, je fais mon micro, je coupe, et puis je lui dis, mais... Tu connais ? Non, tu sais que je vous ai vu faire, et puis j'ai vu que vous appuyez toujours sur le même bouton, vous avez oublié de le faire, là. J'ai dit, tu ne dois pas faire de la radio. C'est vrai ?
Oui, oui, c'est
vrai. Tu avais 12 ans.
Je sortais de Radio 3 de chez Alain, j'ai fait Radio 93 aussi un petit peu auparavant. Et oui, en effet, je suis arrivé chez toi, enfin, à RMB à l'époque, avant d'enquiller avec Jacques. J'ai fait un peu le tour aussi, hein, ni plus ni moins. Mais...
Et après, tu es parti faire le DJ à Agde, là-bas.
Aussi, à plein d'endroits. Reprendre.
Il est revenu.
Oui, ouais, il avait un t-shirt avec toutes les fréquences de Agde. Je dis, mais tu viens d'où ? Bah, tu vois pas.
À ton avis. Alors, revenons sur Radio Fréquence Néry, parce que c'est important de rappeler qu'il n'y avait pas de radio uniquement à Montluçon dans le bassin. Il y en avait donc à Néry-les-Bains. Vite fait, Laurent, donc tu faisais quoi là-bas, toi ?
Ouais, je faisais un petit peu la même chose que ça.
D'accord.
De la radio.
C'était le
quoi.
Top. Top
musique. Voilà, fallait trouver un autre nom. Top musique. Bon, ça reste des années pas mal, car Radio Fréquence Néry, mais bon, c'est ce que je dis souvent. Pour moi, la plus belle, c'était Caroline.
Ah.
Ouais. Franchement. Bon, les années Radio 3, j'ai bien aimé, c'était le début. Enfin, pas très à l'aise au départ.
Caroline, c'était un peu la radio en avance, hein, quand même. Hein. Ouais. Elle était en avance,
ouais,
hein, quand même.
C'est vrai.
Surtout sur les jingles.
Oui, c'est vrai. Il y avait un autre ton. Voilà, enfin, il y avait un autre ton. Nous, on enviait à l'époque votre fréquence, mais je me rappelle plus laquelle c'était, enfin, vous avez sur les autocollants, ouais. Là, parce que nous, on avait 100 MHz, on serait dit, ça l'aurait plus fait si on avait eu 93.4.
Ah non, 100, c'est ouais, génial.
C'est
la radio 100%, c'est la radio dans le sang.
Non, mais enfin, nous, à l'époque, dans nos petites têtes, on se disait, putain, on aurait pu le faire.
Pourquoi on n'a pas un point, quoi?
Tu parles des autocollants, mais sort l'autocollant d'RMB de l'époque et l'autocollant de Caroline, il n'y a pas photo, quoi.
Ouais, c'est vrai. Ouais.
Je l'ai encore. En tête. Mais tout à l'heure, on parlait du plaisir de faire de la radio en oubliant tout ce qu'il y avait autour. Parce qu'effectivement, il y avait de l'argent, il y avait de la politique, il y avait plein de choses. Mais nous, animateurs, on s'en moquait de ça. Et il n'y avait pas d'animosité entre animateurs. Il n'y en avait pas.
Non, c'est vrai.
Et t'as raison de dire, Jérôme, il y avait un son particulier pour Caroline et qu'on enviait parce qu'on se disait, mais ils ont compris. Il y avait quand même ça, Jacques, il faut le dire, vous aviez été aussi DJ.
Il y avait une culture DJ, en fait, voilà, c'est ça, ouais.
Il y avait une touche DJ. Ça se sentait, les enchaînements, les enchaînements, prendre les intros. Caler des jingles sur les intros.
Ah, les intros, ouais.
Alors, si vous vous souvenez de Laurent, je lui citais tout à l'heure, le truc à Laurent Motte, si vous vous en rappelez, c'était « Je cale mon disque sur le refrain ». Je fais mon blabla et je dis voilà, Laurent Motte, on va écouter maintenant. Et clac, j'envoie juste le refrain. Je reprends le micro. Pendant que je reprends le micro, je remets le disque au début et j'envoie. Et ça, c'était la signature de Laurent. Il faisait ça tout le temps, tout le temps.
C'était la signature du grand Ian Egan aussi.
Voilà.
C'est mon idole.
Ouais. Ouais, tu t'es inspiré un petit peu ailleurs, du coup.
Ah ouais, moi, Ian Egan, c'est lui qui m'a donné envie de faire de la radio, quoi. Quand je l'écoutais sur Europe 1 le soir, je dis, c'est fou ce qu'il fait, ce mec.
Et voilà.
Après, en local, il y a eu Jacques. J'avais un peu Jacques. Et puis Jean-Claude Magory aussi.
Voilà.
Qui est très bon en animation radio.
Voilà.
Très bon.
Ouais. Alors, il y avait donc Radio Fréquence Terry, il y avait aussi donc Savigny Vernet,
RSV.
Oui, qui existait également, hein, faut, ouais. On va quand même les citer.
Eh ben, faut dire quand même que, alors, c'était toute une famille, les Leroux, pour pas les nommer.
C'est ça, oui.
Toute une famille, deux frères, le père, la mère, les copines. Et ils émettaient du garage.
De la maison, ouais. Dans la pantille, en fait.
Jean-Luc Leroux, qui était le plus, l'aîné des fils, il doit faire quelque chose comme un mètre 93, je pense, un truc comme ça, 92, hein. Et, il est bien planté, on va dire. Et il était toute la journée la tête baissée, les épaules courbées pour tenir dans le garage qui était très bas. Il n'y avait pas deux mètres. Hein.
D'accord.
Il était courbé et il se déplaçait presque à quatre pattes, quoi. Et c'était fou, quoi. Non, faut quand même le souligner. Hein. Oui, ça fait partie des radios qui ont existé et avec des moyens du bord.
C'est ça, dans le garage, quoi.
C'est ça, des radios dans le garage. Alors, il y a eu une évolution à la fin des années 80. On est passé donc du modèle, enfin, c'est le modèle économique, hein, des radios FM qui a muté avec des concentrations, des réseaux, signant à terme l'arrêt de mort, en fait, hein, de la plupart des opérateurs locaux. On va faire un coup de projecteur sur ces différentes transitions. Alors, il y a eu Caroline qui est passée en Fil FM, puis après en Europe 2, ce qu'aujourd'hui c'est Virgin. Alors, Jacques, tu as fait la transition, toi, carrément.
Alors, pas Virgin.
Non, mais d'accord.
Je suis passé, effectivement, de Caroline à Fil FM à Europe 2.
Voilà. Ouais. Explique-nous un petit peu ce qui s'est passé là.
Parce que alors, on va retourner un peu à l'idéologie, finalement. C'est-à-dire que la personne qui était l'inspiratrice de Radio Caroline a voulu passer à autre chose.
Et dire aussi à Distop,
voilà.
Quoi.
Voilà. Qu'est-ce que je vais faire de cette radio? Donc il a passé entre guillemets des petites annonces. Et une radio, une petite radio qui était sur Limoges, qui avait déjà un réseau de deux petites radios, s'est dit, bah tiens, pourquoi je ne rajouterais pas Montluçon? Donc ils ont repris Montluçon. Ça a duré quelques mois parce que c'était très difficile à faire fonctionner. Et finalement, ils se sont trouvés des accords avec l'agence Havas, en l'occurrence le journal La Montagne.
Le groupe Centre France.
Voilà, qui a repris la radio et qui a dit on va passer à l'étage du dessus et on va devenir Europe 2.
Monsieur Chadeng, vous vous souvenez de cette époque-là un petit peu, cette concentration, le CSA était, vous voyez ça de quel œil exactement à l'époque?
Bah, ça a conduit tout simplement à créer ce qu'on appelle les cinq grandes catégories de radio pour dire attention à la concentration et attention à ce que le marché publicitaire local ne soit pas complètement siphonné par des réseaux qui n'ont aucune implication locale. Et c'est bien pour ça qu'on s'est dit maintenant on va essayer de partager les fréquences pour que le local, la pub locale reste locale et que les autres se servent sur le national.
Ah, tout à fait. Donc là, du coup, Fil FM, après, c'était Centre France, c'était la montagne, en fait, qui était derrière.
Groupe Centre France.
Voilà, groupe Centre France, la montagne. Voilà.
Et du coup, il y avait une centaine d'animateurs sur Radio Caroline, ils ont fait quoi?
Eh bien, ils m'ont demandé qu'il n'y en ait plus que deux.
D'accord. Voilà. Donc toi et Christophe.
Non, toi et Christophe.
Oui, ben, merci.
C'est vrai. Parce que moi, je suis parti.
Oui, t'es parti, toi. Voilà. Et du coup, après, il n'y avait pas que moi, il y avait aussi.
Non, il y en avait sept qui restaient.
Ouais, 7 ou 8.
Ils m'ont dit deux.
Non, alors, moi, je vais t'expliquer, Jacques, puisque je suis arrivé après toi.
Ah oui, juste derrière.
Juste derrière.
Pour la petite histoire, on était 44 à rue Morel-Ladeuil, à Clermont, hein, pour le poste. Moi, je voulais Montluçon. Et puis ils m'ont dit alors les mecs ils venaient de partout, ils venaient d'Énergie, Nice, ils arrivaient par avion, on leur avait payé le billet de train, les mecs ils venaient de, il y en avait qui avaient fait pigiste à RTL, qui avaient été Texman Europe 1, enfin bon, les mecs ils se barraient, quoi, fallait y trouver du boulot. Et je me suis dit pourquoi moi? Et les mecs ils parlaient tous de ce qu'ils avaient fait avant, mais moi j'avais fait quoi avant? RMB, quoi. Donc quand j'ai vu ça, je me suis levé Et je leur ai dit, bon, écoutez, je crois qu'on ne s'est pas compris. Moi, j'étais venu pour parler de l'avenir, pas pour parler du passé. Hein. Maintenant, si vous voulez quelqu'un qui vous laisse une radio leader et qui gagne de l'argent, je suis votre homme. Je suis prêt à vous signer ma démission pour tout de suite, pour dans un an. Texto, c'est ce qui s'est passé. Alors, ils m'ont rattrapé, je me suis levé, ils m'ont rattrapé, ils m'ont dit, bah, attendez, on peut pas faire ça, mais votre démarche nous intéresse. Bon, voilà. Et alors, vous êtes mobile? Je dis, vous plaisantez pour ce que vous offrez, là. Je suis pas mobile du tout. C'est ce que tu as fait, toi, Jacques, voilà. Avant moi. Voilà. Moi, je savais pas. Et j'aurais dit, non, mais en revanche, votre salaire peut m'intéresser si je suis intéressé aux bénéfices. Si ça marche pas, vous avez rien à perdre. Si ça marche, en revanche, bon, bah, d'accord.
Et banco.
Et là, ça s'est passé comme ça. Et ça a duré 5 ans.
Alors, Jacques, donc la fin de ta carrière radiophonique, elle s'arrête là, en fait. Hein,
j'ai voulu rester à mes racines molussonaises et pas déménager sur Clermont, voilà. Tout simplement.
J'ai quelques sonores, notamment de l'époque. Une pub où tu officies avec Michel. Ah, c'est parti.
Commerçant. Votre chiffre d'affaires augmente? Tout va bien? Votre affaire tourne bien? Alors, qu'attendez-vous pour vous faire mieux connaître? Ayez le réflexe publicité, mais adressez-vous à des professionnels. Contactez-nous au 70 05 55 00 Europe 2, publicité, régie Havas.
Vous êtes intéressé? Contact
70 05 55 00.
Voilà, donc Michel.
Ça, pour faire ça, il fallait quand même l'après-midi. Hein,
voilà. Oui, c'est clair. En fait, tu avais bien les voix un peu rigolotes, là, Jacques, hein, ouais, dans tes pubs.
Beaucoup.
C'était,
beaucoup.
Hein, c'était voilà. Également, il y avait sur Europe 2, eh bien, Christophe Lipon, Claude Biarrot qui retrouvaient ces petits sonores pour l'agenda.
Bonjour, c'est Christophe sur Europe 2.
Bonjour, c'est Claude.
Europe 2, information, loisirs.
Tout d'abord, l'association Amstram Gam vous propose d'écouter et d'apprécier la chanson française en compagnie de Johan Pauverdier le samedi 28 novembre en spectacle au Guingois. Le Guingois, c'est bien entendu 8 rue de la Réunion à Melusson.
Non, voilà, donc après ça continue. Il y a Claude Biarrot, tiens, on va écouter aussi. Parce que...
Melusson de ce mardi 24 ouais. novembre. Sachez qu'elle sera ouverte de 14h à 22h30 et que vous pourrez pratiquer yoga, tennis de table, informatique, danse afro jazz, évolution rythmique, cours d'arabe, éventuellement même dentelle au fuseau.
Alors, par contre, c'est très années 80, là, on le sent bien les années 80 sur ces sons-là, un petit peu d'agenda. T'as un petit mot, Jacques?
Oh, c'est plein de bons souvenirs. Ben c'est oui. plein de bons souvenirs. Et on a écouté, pendant un court instant, la voix de Devine.
Evine Renaud.
Evine Renaud,
qui était la commerciale.
Oui. Je posais une question au monsieur du CTR.
Oui.
C'est
oui.
ça ou CTR c'est, enfin,
c'est, bah, c'est la même chose. C'est, ouais. On représente le CSA.
À quel moment et comment a été amenée la pub à, comment est-ce qu'on a été autorisé à vendre de l'espace publicitaire dès le début ou c'est arrivé après? J'ai pas la réponse, hein, sinon je la poserai pas.
Ah, bah, l'autorisation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a dit. Chaque radio ne peut pas vendre autant d'espace publicitaire qu'elle le veut, en tout cas sur l'antenne, diffuser autant de publicité qu'elle le veut. On va partager le nombre de, enfin les radios présentes en catégorie. Les radios de catégorie A, elles, obtiendront à un moment donné des subventions et donc
le fonds de soutien de l'État, quoi.
Le fonds de soutien ouais. et qui ouais. leur permettra de subvenir à leurs besoins sans passer forcément par la vente d'écrans publicitaires. Et puis des catégories qui sont des catégories commerciales locales, comme les catégories B, comme RMB, et puis les catégories C, comme les réseaux qui ont des décrochages locaux, avec bien entendu des limites en termes de diffusion de la publicité et en termes et des obligations aussi en termes de production de programmes locaux.
Nous, on avait un président à l'époque qui avait été négocié avec notre sponsor, je ne parle pas de la mairie, je parle d'Intermarché, et il avait dit comme ça, bon bah pour une somme qui était importante quand même, 18 passages par jour. Et à l'époque, Intermarché, il y avait l'Intermarché, c'était rue de la Rotonde, il y avait le station marché, préparer les bagnoles, et il y avait la cafétéria. Et le mec voulait qu'on groupe les trois enseignes dans le même spot. Oh. Ce qui fait 18 fois par jour. C'est bon, il y a prescription, hein, docteur. Ouais. Oui, oui, oui. 18 fois par jour, c'était des spots qui faisaient 1 minute 30, 2 minutes qui passaient, c'était totalement imbuvable. C'est la vérité. Ouais. Mais bon, ça rapportait de l'oseille, mais on savait pas comment. Et puis l'autre, il écoutait, il voulait vraiment. C'était 3 spots en 1, 18 fois par jour. C'est hallucinant.
C'est vrai que la publicité à l'époque, on faisait un peu ce qu'on voulait. Même les spots, on voit bien, ils durent, enfin, ils ont une durée assez longue. Aujourd'hui, on est plus sur les formats 20-30 secondes. C'est davantage formaté, en effet, par rapport à ce secteur-là. Allez, un petit exemple aussi, tiens, de pub de l'époque avec Christophe, qu'on le regrettait, bien sûr, qu'on écoute pour une pub pour le CAFCON, ce restaurant qui n'existe plus.
11h26 à l'écoute d'Europe 2 Gastronomie, tout de suite avec le plat du jour du CAFCON qui vous propose aujourd'hui, eh bien, tripe à la mode de Caen, accompagné de panachés de légumes à l'anglaise, bien entendu, la pizza traditionnel, on dessert tarte maison, le quart de vin habituel et le tout pour 32 francs service compris. Alors bon appétit au CAFCONS, place Sainte-Anne dans le vieux Montluçon.
Alors c'est sympa avec cette pub parce que le CAFCONS, mine de rien, c'était un peu le rendez-vous de tous les gens de la radio en fait.
Ouais.
Hein.
Ouais, ouais.
Hein, c'est vrai. Hein.
On avait des repas gratuits aussi.
C'est peut-être pour ça aussi. Il était malin, le patron à l'époque. Hein.
Ouais.
Ouais, c'est ça. Hein. Donc du coup, Alain, toi, Europe 2, c'était une révolution. Tes souvenirs d'Europe 2, raconte-nous un petit peu.
Ah ben ça a été, alors comme Jacques le dit tout à l'heure, ce qu'on lui a proposé en arrivant, moi je l'ai fait en arrivant, c'est-à-dire Fafard était là, je leur ai dit voilà, vous êtes 7, et ben il va en rester 3. Alors comme je vous connais pas, vous allez faire des maquettes, et tu parlais de Club Biarrot tout à l'heure, c'était le premier à dire ah non, moi je me fais pas passer sur le grill, pas question, je m'en vais, moins un. Après il y avait je ne sais plus qui, quelqu'un d'autre,
Gilles.
Bon, Gilles aussi pareil, qui est parti. Et puis il est resté Fabrice et Christophe, et moi qui ai pris une part aussi dans le truc. Hein. Voilà. Mais l'idée, c'est qu'on avait 250 clients en permanence. Hein. On avait un mur de cassettes. Et on avait des clients, une concession automobile notamment, qui était extrêmement présente, marque française, qui nous appelait à 7h pour nous dire bon, dans le spot de 7h30, il faudrait expliquer qu'on va faire une promotion exceptionnelle. Hein. Et pendant le disque, on fabriquait les pubs, quoi. On fabriquait, c'était presque en direct, on l'enregistrait, quoi, voilà, avec les jingles, les trucs et tout. Hein. C'était vraiment exceptionnel. On en a fait, mais des tonnes et des tonnes et des tonnes.
C'est vrai que la manière de travailler était complètement différente à partir des réseaux, parce que du coup, on n'avait plus à faire le programme, il y avait juste à faire maintenant du contenu, c'est-à-dire juste faire un peu d'infos et mettre, y compris la publicité. Hein. Donc,
alors, il y avait 7 minutes par heure.
Et décrochage,
oui. 7 minutes par heure, 4 minutes entre 26 et 30 de chaque heure, et puis entre 57 et l'heure pleine, ça faisait 7 minutes donc par heure. Ça, c'était dévolu à la publicité ou au message promotionnel. Et puis, il y avait aussi des plages horaires, entre midi et 2 notamment, et puis le soir, à partir de 19h20, je crois, il y avait de quoi faire des choses. Par exemple, quand on faisait des interviews, tu parlais tout à l'heure, Didier, du Printemps de Bourges, et bien quand on allait faire des spéciales au printemps, on revenait avec tout un tas de matériel, des interviews et autres, et on les montait et on faisait une spéciale. Voilà. Ou alors on faisait des plateaux politiques avec les gens de la montagne. À l'époque, le rédacteur en chef, c'était Jean-Loup Manoussi, qui, tranquillement, je le dis tranquillement, ils s'en foutaient royalement de la radio, mais le groupe Centre France avait dit ouais, vous travaillez la main dans la main, hein, vous allez vous. Bon, d'accord. Parce qu'en fait, les locales, quand Jacques, toi, tu arrivais à Europe 2, ils ont monté une station Europe 2 dans toutes les villes où il y avait une agence Centre-France. Alors pas que la montagne pour Montluçon, mais le Berry républicain, c'était pas Bourges, parce que Bourges avait un contexte politique qui était difficile pour le groupe Centre-France. Ils ont dit ça sera Châteauroux d'abord, puis après il y a eu Bourges, c'était le Berry républicain, il y a eu le journal du centre à Limoges, il y a eu la montagne, donc et en dernier, quand ils ont vu que ça fonctionnait, ils se sont dit on va monter Clermont-Ferrand, qui a été la dernière à être montée, qui n'a jamais été bénéficiaire d'ailleurs. Parce qu'il faut quand même rappeler qu'à Montluçon, on était leader, mais en plus, on gagnait de l'argent.
Oui, c'est vrai.
Et quand on nous a demandé comment, moi j'étais convoqué régulièrement à la rue Morel-Laneuil, on me disait mais bien comment vous faites ? Vos collègues, ils n'y arrivent pas. Alors, comment vous faites? Dites-leur, parce que nous, ça nous intéresse. Je leur disais, mais je sais pas, vous vous torchez pas là-bas, Montluçon? Il n'y a jamais de notes de frais pour le papier toilette. Je leur dis, si, mais j'ai un copain qui est directeur commercial chez Lotus, alors il m'amène des trucs, démonstration. Et les crayons, vous écrivez pas? Si, parce qu'il y a un magasin des bitons juste en face, et ils nous disent, bah tiens, de temps en temps, vous parlez de nous, puis on vous donnera des stylos. On y arrangez comme vous voulez.
Mais il y avait en même temps tout un monde, autour de ça, avec des requins et, je me rappelle d'un mec qui était passé à la radio, à RMB, pour me dire ce que je te propose, c'est... Alors moi, j'étais que directeur, il y avait un bureau, un président, donc j'avais pas les mains libres, mais bon, je sentais pas bien. Je t'achète une demi-heure d'antenne, et cette demi-heure-là, moi, je vais la vendre à des commerçants. Donc, je vais me faire une marge dessus, donc je sentais pas, alors du coup, je lui ai dit non, alors il est allé à Niry-les-Bains. Il est vite sympathisé avec le président fondateur. Bon, ouais, et le mec, donc, il avait de bonnes idées, était bonne, mais il avait une idée ratée. Donc, il a fini par. Qu'est-ce qu'il y a?
Non. C'est qu'il a vite sympathisé. Ouais,
voilà. Et donc, en fait, il était passé chez la même enseigne dont tu parles, une concession française. Il avait une R25 qu'on lui avait prêtée, marquée en gros des pains d'autocollants. Il avait une remorque moto avec une moto qu'un autre concessionnaire moto lui avait passée. Et en fin de compte, il s'est boré avec la voiture, la remorque et la moto. Ah ouais. Ça faisait aussi partie de ces choses-là. Puis après, nous, Radio Locale, on était aussi démarchés par les réseaux qui voulaient s'implanter. Il y en a qui ont vendu à tort ou à raison, peu importe, leur fréquence, parce qu'il y en avait, je crois que c'est ton cas, Alain, tu avais deux fréquences et t'en as rétrocédé une à je ne sais plus qui, à qui Énergie ?
Oui, c'était Énergie.
Voilà,
oui,
Énergie. Radio Savigny-Vernay est devenue RFM.
RFM, oui.
Tu peux en parler de cette époque-là, non?
De cette époque où il y a eu les changements comme
voilà,
ça.
C'est ça?
Non, pas vraiment, parce que c'était, on se demandait pourquoi ça changeait, quoi, finalement.
Mais, je crois que tu étais en bon terme avec la direction de RFM qui est arrivée après. On en parle?
Tu veux parler de la directrice?
Il y a des dossiers, enfin, des dossiers là.
Hein. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a des dossiers. Ouais.
Qui était une femme charmante et qui m'a proposé de venir travailler avec elle. Et je lui dis, t'as pas les moyens. Et donc, on s'arrangera.
Mais tu as honoré l'accord.
Comment?
Tu as honoré l'accord.
Et on s'est rencontrés. Et voilà, ça s'est pas fait.
Mais il y a d'autres gens autour de la table qui venaient me voir.
On doit se marrer à France Bleu quand même, non?
J'ai l'impression, oui.
Il peut le respecter quand même.
Il y a d'autres gens autour de la table. Forcément, je vais taire les noms, hein, mais qui venaient me voir en me disant passe-moi du liquide, je te referai un chèque, j'ai un rendez-vous l'après-midi avec quelqu'un que tu connais. Et j'ai pas dit ton nom, Jérôme.
Je me rappelle pas de ce truc.
On en parlera.
On est de mémoire sélective.
Vas-y, Jacques. Il y a un truc qui marchait bien aussi, parce qu'il y avait deux pubs. Il y avait la pub qui nous ramenait de l'argent, mais il y avait un truc qui marchait bien, c'était l'échange pub.
Ah bah c'était voilà, ouais.
Voilà.
Le CAFCON en faisait partie. Hein.
Voilà, tout à fait. Et ça me ramène encore à la Foire Exposition. On avait un super stand de 18 mètres carrés, tout vitré, et c'était la miroiterie Ribière. Ou Renault,
oui.
Voilà.
qui nous fournissait
toute la vitrine, mais par contre pendant un mois on mangeait de la vitrerie, quoi.
Avec les moyens du bord.
Voilà.
Après, bon, c'est vrai que Europe 2, je reviens sur la partie donc réseau, donc il n'y avait plus de programmes à faire, il y avait juste à commercialiser entre guillemets et puis à alimenter, mais il y avait aussi des moyens, notamment pour une fois il y avait des calicots, enfin des autocollants, enfin, et ça permettait de faire des choses en place, des opérations
du visuel.
Ouais. Visuel, ouais. Et ça, c'est un peu nouveau aussi.
C'était totalement nouveau. On avait l'impression de faire partie de la cour des grands. D'un seul coup, on se disait, mais qu'est-ce que c'est? Mais on a tout, on demande, tac, on a. On parlait tout à l'heure des cassettes, des 200 cassettes qui étaient derrière nous, là, et qu'on prenait. Un jour, on nous a dit, mais vous travaillez comment? Ben, nous, on travaille avec ce qu'on a. Mais vous savez que maintenant, il y a des lecteurs de cartouches qui vous permettent de passer de l'un à l'autre. Ça a une lecture hyper simple. Ah bon, on en veut, hein? Ah ouais, mais ça coûte cher. Ah bah oui, mais fallait pas nous en parler. Bon bah d'accord. Et on allait acheter le truc qui allait bien, quoi. Et d'un seul coup, on était libérés de plein de choses. Mais on a fait des tas de choses. Mais surtout, on avait la possibilité, pendant ces 7 minutes, on se disait, mais que faire pour ne pas faire que de la pub? Et on a fait... Je me souviens d'une opération, Fabrice, oui. Tu t'en souviens très bien.
L'Europe Stop.
Voilà. Vous savez qu'à l'époque, il y avait Europe 1 qui arrêtait des voitures... qui avait l'autocollant européen, ça s'appelait Europe Stop. On les arrêtait et on leur faisait tirer une enveloppe, on leur disait, bah voilà, vous venez de gagner tel truc. Et moi, j'ai dit, je veux monter ça. Donc j'appelle la rue François 1er en leur disant, je voudrais le monter à Montluçon. Ils m'ont dit, bah attendez, faut qu'on regarde où est-ce que, parce qu'ils étaient encore en activité. Ils m'ont dit, on va regarder parce que si on n'est pas sur votre zone, pourquoi pas? D'accord, alors on se met d'accord, et c'était pendant un été, je crois la première fois, toujours avec un grand concessionnaire, je lui dis voilà, c'est temps, mais je l'avais vendu, mais c'était pas évident, la commerciale à l'époque qu'il avait fait, c'est que je l'avais rencontré, et le patron me dit, Banco, oh, formidable ton truc, formidable, j'y vais, attention, pour que ce soit percutant, il me faut un véhicule neuf toutes les semaines. Je veux le dernier né, quoi. Je veux la GT Turbo, tout. Je veux la dernière, voilà, voiture de luxe. Je veux un gyrophare sur le toit. Et je veux qu'elle soit siglée. Bon, bah, d'accord. Mais je veux qu'on la voie. Alors, j'avais appelé
là,
à l'époque.
Là, on parle de 1989-90, hein.
Ouais. Et j'appelle à l'époque le service qui gérait les places de stationnement à Montluçon. Je leur dis, est-ce que vous nous autoriseriez à mettre notre véhicule sans nous verbaliser régulièrement sur le boulevard ou des grandes artères pour qu'on la voie, quoi. Ils m'ont dit, mais pourquoi on ferait ça? Parce que vous avez besoin de communiquer. Vous avez besoin qu'on sache qu'on peut prendre des abonnements chez vous. Et nous, on va le faire. En contrepartie. Ah bah oui, d'accord. Je contacte la gendarmerie qui me dit, vous rigolez, attendez, avec un gyrophare. Je dis, mais alors, quelle est la loi? Ça doit être ou un véhicule atelier ou un véhicule agricole. J'aurai une caisse à outils dans le coffre. Bon, d'accord, gyrophare sur le toit, mais vous l'allumez pas le gyrophare. Non, non, je l'allumerai pas.
Non, bah non, bah non.
Je pas.
Bah non, monsieur l'agent, bah non, sûrement pas.
Et j'ai dit en contrepartie, on va faire ça en contrepartie.
J'ai glissé.
Vous avez une image de répression, on va la changer. Je vous propose, je me rappelle très bien, c'était un capitaine, il s'appelait Capitaine Tétaz à l'époque, et je lui avais dit, on va changer ça, vous avez donné conseil de circulation, et surtout, on va offrir dans nos cadeaux des éléments de sécurité. Ça va être par exemple des trains de pneus, mais ça va être aussi l'extincteur, ça va être bon, mais on offre aussi des chaînes CO, des trucs. Hein.
Et ça a bien fonctionné ce truc.
Quand on voulait arrêter les voitures, les gens se disaient, mais qu'est-ce qu'ils nous veulent derrière? Alors ils accéléraient, ils fonçaient. Et alors de temps en temps, je mettais un tout petit coup de
gyrophare.
Du gyrophare.
Léger.
Et inévitablement, bah, y avait des voitures banalisées déjà à l'époque, hein, et j'ai fait jouer des gendarmes qui étaient en voiture banalisée. Ils disaient, mais j'ai pas fait gaffe. La prise était juste posée sur le bord de l'allume-cigare, je l'ai poussée avec le genou, je voulais même pas l'allumer.
Elle a glissé, voilà, c'est voilà. Ça, c'est bien ce que vous disiez.
Ça a été des expériences incroyables, incroyables.
En tout cas, ça a bien fonctionné, et ça faisait partie, ça augmentait la notoriété, notamment d'Europe 2 à l'époque.
Ah hein, bon, alors, disais, vous pouvez jouer que si vous avez l'autocollant derrière la vitre.
Oui. Ah, c'était un peu l'idée. Alain, revenons un petit peu à toi. Donc, de Radio 3, on est passé à Énergie. Alors, en effet, il y avait ce studio rue de Bruxelles, avec le côté fast-food, hein. Explique-nous ouais. Un petit peu ce que tu faisais, raconte un peu l'époque là. Parce que c'est pareil, là c'est un peu la bascule de Radio 3.
Des hamburgers à la béarnaise.
C'était bien en plus.
C'est super bon.
Ouais. Oui, on avait une bonne réputation pour le produit, ouais, ça allait près de ce côté-là. Mais au niveau de la radio, mais, qui c'est qui. Je ne sais plus si c'était. Je me rappelle.
Moi. Toi, et Yves, pas, Yves était là.
Qui,
ouais.
Qui était là, oui.
Ouais, Yves.
On avait
Yves. Il y avait Yves aussi, ouais.
Ouais, puis bon, il faisait l'animation. Hein.
C'était sous les toits, d'ailleurs.
Sous les toits, ouais. Ouais, ça faisait un peu chaud, oui.
C'est vrai.
Mais ça se passait bien quand même.
Oui, c'était cool.
Ça avait un côté monotone, mais bon.
En plus, c'était super grand parce que
c'était. Ça, c'est qu'on était super libre, par contre. Hein.
C'était super grand parce que c'était une ancienne concession automobile.
Ouais, c'est ça.
Et donc, il y avait un. C'est pas, ça faisait peut-être 300 mètres carrés au sol sur trois niveaux.
C'était immense. C'était immense.
Pour les studios de radio, en effet, c'est immense.
Ah oui.
Bon, on en rêve.
Pas RJFM. Non.
On en rêve sacrément.
J'avais même commencé à monter toute une partie en haut, sur le haut. Puis bon, ça s'est pas fait. Après, bon, on est arrivé à autre chose. Après, on est passé à autre chose. Mais oui, c'était un petit peu original encore. Oui. Le fast-food aussi, c'était sympa. Je crois que ça a duré 2-3 ans. Puis bon, on est encore passé à autre chose.
Oui, parce qu'après, les studios ont fini Quartier des Idées, il me semble, c'est ça?
Non, ça c'était Almeida, c'était Énergie qui était rue des Fauchois,
oui, c'est ça.
C'était Almeida, oui, exact. Ouais.
D'accord.
Gilles Almeida.
Ok. Donc toi, studio rue de Bruxelles, tu faisais quoi? Il se passait quoi, Jérôme? Tiens, explique-nous.
C'est Jérôme qui.
On faisait de la radio. On était deux, en fait. Ouais. On était deux. Moi, j'étais Tuco SIVP, enfin, je sais plus le type de contrat à l'époque.
C'était quoi l'antenne? C'était Radio 3 ou
déjà Énergie? Ah, c'est Radio 3, ouais. C'était Radio 3. C'était la fin de Radio 3, en fait, là.
Pour parler de l'impact sur l'auditeur, Jérôme, Jacques, Fabrice, Alain Lombard qui est en face de moi, ou Didier, le matin, souvent, les auditeurs arrivaient avec une brioche ou des croissants.
Ah oui, bah oui, ça arrivait.
Ils nous remerciaient d'être, alors que nous, on faisait que notre job, mais c'était, on partageait leur intimité.
On faisait partie de leur quotidien.
Leur journée, voilà, c'est ça.
C'était le truc des radios libres, justement. C'est qu'elles étaient dans la ville, elles parlaient de la ville, elles parlaient des gens, elles parlaient des commerces. Vous pouviez être dans le commerce XY. Là où vous écoutiez les radios, vous y étiez dans ce commerce. Ça, vous ne l'avez pas sur Europe 1, RTL ou ce que vous voulez. On parlait d'eux et chez eux.
Beaucoup de proximité, donc.
C'est ça.
Et ils nous voyaient. Oui. Ils pouvaient venir à la radio nous voir. Certains regardaient par le hublot. Ils regardaient l'enceinte. Ils regardaient le hublot. Puis quand on sortait, ils faisaient « Ah ben, je ne vous voyais pas comme ça. » Alors, on leur disait, évidemment, nous non plus, on ne vous voyait pas comme
on
ça.
On a eu quelques autographes à signer.
Ah ben oui, mais c'est vrai. Mais tu sais que ça nous arrive encore, cher ami.
Aussi, surtout, c'était en fait une jeunesse à cette époque qui avait pris en main quelque chose, c'était pas les RTL ou autre, c'était vraiment toute une jeunesse, hein, je crois.
C'est
hein.
ce que je disais tout à l'heure, on a pu bénéficier de la liberté que les gens en 70, voilà. Dans les années 70, ils voulaient la liberté, ils l'ont pas eu, ils la réclamaient, mais nous, dans les années 80, on l'a eu, cette liberté. Ah ouais.
Mais c'est le maître mot, liberté. Ouais.
Liberté. Je crois que c'est aussi, ça fait partie de, c'était d'un moment, quoi, je veux dire, les jeunes avaient la parole. Et il l'avait bien, quoi.
Il l'avait. C'est vrai qu'une chose aussi dont on n'a pas parlé, c'est que les gens avaient aussi l'occasion de pouvoir s'exprimer ou aussi faire les dédicaces. Les dédicaces, c'était des émissions, je dirais, cultes des années 80.
Extraordinaire. C'est le plaisir à l'état pur.
Mais moi, je me souviens, Radio Caroline, standard, il y avait trois lignes. Hein.
Alors, on avait dans nos animateurs un jeune homme, on en parlait tout à l'heure, qui s'appelait Jean-Luc Tête-Noire, dont le papa travaillait chez France Télécom à l'époque, qui était rue des Forges, et qui nous avait fait des relevés téléphoniques au moment des dédicaces. Et on était à peu près à 1000 appels téléphoniques à l'heure.
Oh, c'est énorme.
Oui, c'était incroyable. Son,
c'était énorme. C'était énorme.
Ah oui. Là, franchement, 1000 personnes qui appelaient en même temps. Ouais. Et alors, c'est vrai que...
Mais les gens écoutaient la radio, oui, mais... Internet, il n'y avait rien.
C'est vrai que c'était vraiment le média à la mode. Et c'est vrai que de l'autre côté, au standard, parce que c'était en fait nous dans la derrière.
C'était une folie.
C'était une folie, parce que c'était. On n'arrêtait pas, quoi. Les jeux fonctionnaient bien aussi, hein. Et puis, l'émission de voyance aussi, ça faut que ça.
Ouais.
Hein
oui,
hein.
Oui, avec.
La Pierrette.
Pierrette, voilà.
Avec Pierrette, ça faisait partie dans les grilles hein, de l'époque, choses qui ont complètement disparu, on est bien d'accord. Hein. Plus la dédicace aujourd'hui, c'est fini.
C'est dommage parce que ça permettait aux gens de faire passer plein de messages.
Bien sûr.
C'était génial. J'adorais passer le message à Pierre de la Nord-de-Pol.
Il n'y avait pas de réseaux sociaux. Donc il y avait ce message qui passait. Et en plus, il y avait une connotation toujours, parfois de séduction, parfois remerciement, parfois c'était pour les parents. C'était toujours le plaisir, son propre plaisir ou celui de l'autre. Je voudrais juste vous dire une chose. Pendant qu'on parle là, il y a des gens qui nous écoutent. Des auditeurs, des auditrices, et qui se disent, bah, dis donc, mais ça me rappelle plein de choses et tout, et qui ont des souvenirs. Je vous le dis parce que quelqu'un qui a dû garder mon numéro.
Je suis à 1200 textos.
Ça me donne la chair de poule. Les propos me donnent la chair de poule, les débuts de la radio. Merci, émotion, nostalgie. Voilà ce que je viens d'en savoir à l'instant. Et je vais vous dire juste une chose. On n'aurait jamais pu faire cette radio. On aurait pu. Moi, je continue. Didier aussi, mais on a encore ce métier dans la peau et on en vit encore. Grâce à vous, parce que nous, c'est les impôts qui nous payent. Mais ça a toujours été grâce à vous.
C'est votre argent.
Non, c'est toujours grâce à vous. Ça veut dire que si vous n'écoutez pas la radio, on n'est plus là. Et si vous n'aviez pas été là au départ, on n'aurait pas pu vivre l'expérience.
Exactement.
C'est l'auditeur toujours qui est au centre et qui doit rester, je le dis pour ceux qui sont maintenant devant les micros, c'est l'auditeur qui doit toujours être au centre du plaisir et de la cible. C'est pas notre propre plaisir. De toute façon, nous, on l'a quand les autres, ils ont, donc c'est clair.
C'est ce qui a toujours animé notre passion. De toute façon, c'est l'auditeur, effectivement, on le fait pour les autres, en fait. C'est comme la cuisine, en fait, la radio.
Bien sûr.
Avant de parler du futur de la radio, Alain, une petite casserole. Allez, rien que pour toi.
Exceptionnel, samedi 28 et dimanche 29 novembre, à l'hôtel Novelta, vente massive de cuir véritable. Les dernières nouveautés parisiennes, blouson à partir de 590 francs, jupe à partir de 390 francs. Facilité de paiement. Samedi 28 et dimanche 29 novembre, à l'hôtel Novelta, route de Guéret, sortie Montluçon. De 10h à 19h, un événement à ne pas manquer.
Voilà, donc
ne pas manquer la phrase quand on avait, on se disait, je suis resté en l'air, faut que je dise un truc pour redescendre.
Pour descendre.
Bien sûr, l'hôtel Velta n'existe plus depuis belle lurette.
Oui, c'est pour ça que ça va pas leur faire de pub.
Non, mais
c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils n'existent plus. Ça, tiens, j'ai, pour le coup, j'ai une anecdote, faut que je vous rappelle, par rapport à l'hôtel de Velta, parce qu'il fallait pas me lancer. Je devais faire l'interview de d'un type qui a disparu maintenant, Manu Dibango.
Oui.
Et j'avais pas l'interview que je l'avais. J'ai pas réussi à voir les responsables. Mais je savais qu'il est logé au Novelta. Et je me suis pointé au Novelta. Et le manager arrive. Étienne, il s'appelait. Et il me dit, qu'est-ce que vous voulez? Je dis, ben, j'avais noté que je devais voir Manu à cette heure-là, mais je sais pas si vous l'aviez noté et tout. Alors, ben, j'avais pas menti. C'est moi qui l'avais noté. Mais j'avais pas rendez-vous. Il me dit, ben, je vais voir. Et je dis, je peux me mettre là, d'accord, le directeur m'installe dans une salle, il manquait une ampoule, il a sorti l'escabeau pour changer une ampoule sur 50 dans une salle de réception, et j'étais avec un copain. Et j'avais un petit magnéto, Sony, je me rappelle, et un petit magnéto, et il fonctionnait sur pile, mais aussi, je savais pas pour combien de temps j'en aurais, je cherchais une prise de courant. Et je trouvais pas. Et le pote qui était derrière moi, il se met à faire, bon, dis donc, tu vas la trouver, là, la prise. Et j'écoute, derrière moi, il y a un problème.
C'était qui?
Et je me retourne, c'était Manu Dibango qui venait de rentrer. Et je me sens devenir livide. Et je lui dis, non, mais ça fait rien, on va fonctionner sur pile, merci. Et là, ça a été, voilà, mais c'était incroyable. Et c'était au Novelta.
La FM, donc, fête ses 40 ans. Monsieur Chadaigne, on va peut-être parler un peu de l'avenir, mais avant de parler du DAB+, notamment, est-ce que vous sentez que Montluçon est vraiment atypique au niveau de l'offre radiophonique, parce que avec toutes ces radios qui sont nées dans les années 80, ça vous paraît particulier ou il n'y a pas qu'à Montluçon ou...
Bon, chaque ville a ses particularités et ses particularismes, mais à Montluçon, ce que je remarque, c'est qu'il y a, deux radios locales, de vraies radios locales, comme RMB et RJFM, et qui dont le succès ne se dément pas. C'est-à-dire qu'on voit qu'elles sont toujours dynamiques, on voit qu'elles existent maintenant depuis, on va dire, 30 ans.
30 ans l'année prochaine, oui.
30 ans l'année prochaine.
Pour nous.
Et d'ailleurs, les auditeurs ne le savent pas, mais là, il y a les pionniers, les anciens, mais c'est que derrière les platines, il y a aussi de la jeunesse. Et ça, c'est vraiment enthousiasmant. Franchement, j'ai beaucoup de plaisir à être là, mais aussi à voir qu'il y a la relève.
La relève est là, en effet. Ça fait toujours plaisir d'avoir tous ces jeunes qui sont fans de radio. Alors, l'AFM, elle est un petit peu en perte de vitesse, hein, du moins, elle est supplantée par le numérique. Le DAB+, ça va démarrer bientôt. Alors, le DAB+, expliquez-nous un petit peu ce que c'est pour le commun des mortels, expliquez un petit peu.
Ouais, pour faire simple, c'est de la radio, mais numérique. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une fréquence FM, on a un canal qui est partagé en 13 places. C'est un son numérique, ça permet aussi de faire des données associées. Voilà, c'est tout simplement, ça on augmente en qualité.
D'accord. Ça démarre quand sur la région?
Alors, sur la région, ce sera probablement d'ici 2022.
D'accord.
Alors, pour des radios locales montluçonnaises, ce sera plus tard. On va avoir une première période qui va être le lancement des réseaux nationaux, c'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle les multiplex, c'est-à-dire 25 radios qui vont arriver sur tout le territoire.
Ouais.
Donc on pourra écouter sans problème de Lille à Marseille sans avoir de décrochage, sans avoir de crachotis. Et puis ça va arriver donc d'ici l'été, peut-être à la rentrée prochaine. Et petit à petit vont se mettre en place des multiplex locaux, régionaux, avec les radios existantes en FM qui vont peut-être passer, alors c'est pas obligatoire évidemment, mais qui vont peut-être passer aussi sur le DAB+, et puis une nouvelle offre de radios supplémentaires sur ces multiplex.
D'accord. Donc on rappelle pour nos auditeurs que pour l'instant, il y a un changement de poste à faire, parce que du coup le DAB+, on l'a pas...
Alors si vous avez un poste qui a 15 ans, effectivement, vous avez peu de chances de recevoir le DAB+. Mais depuis quelques années, beaucoup de postes bénéficient déjà d'une puce DAB, ce qui permet de l'écouter. Et puis maintenant, tous les nouveaux véhicules, on écoute beaucoup la radio dans son véhicule le matin en partant au travail ou en revenant le soir. Et les fabricants les constructeurs ont l'obligation d'intégrer des puces DAB, ce qui fait que maintenant chaque véhicule neuf vous permet d'écouter cette radio-là.
Ça permet aussi autre chose, Fabrice. Ça permet que à l'écoute, on est les titres et les interprètes qui s'affichent. Il faut savoir quand même qu'en Espagne, par exemple, ou en Italie, mais l'Espagne en premier, et ça fait 5-6 ans déjà que ça fonctionne. On passait la frontière, paf, ça y est, c'était parti. On avait ce genre de formation et dès qu'on passait la frontière, on ne l'avait plus. C'est important quand même de dire que y a ça. Mais c'est une autre façon de faire de la radio parce que
c'est ça.
On sait qu'il n'y aura plus une écoute de A à Z, par exemple de 6h à 18h. Les gens vont pouvoir choisir leur style de musique. Il y aura une sélection qui sera faite. Hein. On va pouvoir écouter tout ce qui correspond au sport ou au jazz ou autre. Et on passera d'une radio à l'autre comme ça.
Alors, il y a les mutations en effet de la radio en général, parce que aussi, de plus en plus, on passe à la vidéo, n'est-ce pas, Alain?
Alors, moi, c'est pas de la vidéo ce qu'on fait. Hein. Je travaille à Radio France. Et Radio France, au niveau national, a décidé de faire un accord, pour limiter les coûts vraisemblablement, avec France Télévisions. Donc, aujourd'hui, comme je le faisais quand je suis rentré à Radio France à Besançon, où je présentais la météo sur France 3, eh bien aujourd'hui, je fais, oui, de la radio et de la télé en même temps, puisque je suis en direct sur France 3 Limousin. Pour le même prix, je vous le dis, je fais les deux. Voilà. Non, mais il y a effectivement, il y a l'image, mais c'est difficile, Didier peut en parler, mais je veux dire, c'est compliqué quand on est à l'image, ça change tout. L'image a un impact incroyable, mais on perd la magie de la radio. La magie de la radio, pour moi, c'est simple.
Oui, c'est l'audio,
c'est
la voix.
L'immédiateté, c'est la voix, mais c'est aussi l'imaginaire.
Il y a le mystère,
qui est derrière, Jérôme, tu as raison de dire. Alors que là, on a l'image. Alors, il n'y a qu'une chose qui change quand même, c'est qu'il ne faut plus aller jeter son pain. Là où on travaille, c'est pour ça que je travaille pas d'ailleurs dans la région où je vis, parce que c'est c'est vous que j'ai écouté, que j'ai vu ce matin. D'ailleurs, les gens ont changé leur façon de dire. Ils disent plus je vous écoute à la radio ou je vous ai vu à la télé. Ils disent je vous ai vu à la radio.
Grosse mutation en tout cas. Ça vous parle un petit peu, Monsieur Jardin, aussi le fait que la radio passe un petit peu aux images. Ça vous
C'est la vie des médias, hein. C'est-à-dire que ce qu'on faisait il y a 40 ans, on le fait plus maintenant. Et alors effectivement, ça a changé beaucoup les rapports, sans doute, et surtout la façon de travailler pour.
Quand on a 6 caméras autour de soi, on est plus
les femmes de radio.
C'est plus pareil. Ouais.
Mais on parle de ça, mais aussi on peut parler des normes et puis de l'interopérabilité aussi, c'est-à-dire que. Désormais, c'est plus l'AFM, c'est plus le DAB, c'est on a un récepteur et on cherche un type d'information, on cherche un type de musique, ce que vous disiez, c'est-à-dire que la possibilité un jour d'avoir de cliquer je veux de la musique classique et voilà, sur votre parcours de Paris à Marseille, pour reprendre l'exemple que je vous donnais tout à l'heure. Quel que soit le programme, on aura toujours de la musique classique. Alors peut-être que ça passera sur France Musique, peut-être que ça passera sur Radio Classique. Voilà, vous aurez du début à la fin, soit en FM, soit en DAB, soit en réseau Internet.
Il y a une autre transformation, c'est les sons qui sont donc qui sont numériques. Je vous donne un ordre d'idée. Sur une zone précise, vous avez tant d'auditeurs au quotidien, ce qu'on appelle l'audience veille cumulée. Vous savez que vous avez ce potentiel et qui existe puisque on fait des sondages, c'est les médiamétries, les médias locaux aussi. Mais vos sons sont relayés sur le net et là il y a une préemption de ces sons, c'est-à-dire qu'on a un téléchargement, hein, et on va passer, je vous donne un ordre d'idée, de 44 000 à 170 000 sur la même séquence.
Et par rapport au podcast, c'est ça que tu veux dire?
Ouais,
le podcast, oui.
Et on a des réactions de gens, tous les jours, de gens qui nous écoutent, parce qu'ils sont de la région, par exemple, et qui veulent garder un lien, au Canada, en Indonésie, et c'est incroyable. C'est incroyable. Alors, est-ce qu'on fait de la radio pour ça? Franchement, non. Mais bon, voilà, faut le savoir, c'est différent. Et puis juste une chose aussi, mais là je vais adresser à tous les copains qui ont fait de la radio ou ceux qui continuent d'en faire, il y a une chose qui change quand c'est filmé, c'est que moi je suis en direct tous les matins sur France 3, il y a une chose, c'est qu'on a une gestuelle, c'est-à-dire que vous sachiez que quand on se parle avec le technicien, on lui pas « bon maintenant on voit le disque », on lui fait un geste, le doigt qui tourne au-dessus, ça veut dire « je veux la musique sous la voix », ben, ainsi de suite. Et là on n'a plus le droit de faire de gestes, parce que ces gestes, ils sont relayés par l'image. Donc on doit être tellement raccord, ça doit être tellement préparé que c'est plus du tout le même plaisir.
Et moi, je voudrais rajouter quelque chose. Si on a tous fait de la radio autour de la table, c'est qu'on est moche. Et donc, sinon, on aurait fait de la télé. Donc, ça fait bizarre.
Le fameux physique de radio.
Voilà, c'est ça. Le fameux physique de radio. On accueille autour de cette table également Eric Bourgognon. Bonjour. Vous êtes le conservateur du musée du MUPOP, hein, à côté de nous.
Bonjour. Oui, bonjour.
Et je sais que vous êtes un fanat de radio également.
Eh bien oui, effectivement, ma vraie spécialité de conservateur, c'est l'histoire de la radio.
Oui.
Donc effectivement, c'est un sujet qui me touche particulièrement et dont j'ai fait bénéficier en quelque sorte le MUPOP, puisque la radio au XXe siècle a eu un rôle fondamental dans la diffusion de ce qu'on appelle les musiques populaires. Et c'est un des axes qui explique qu'on soit passé de répertoires musicaux très localisés au XIXe siècle à des musiques complètement mondialisées à la fin du XXe siècle. Ça a été porté d'abord par le disque, mais surtout par la radio. Alors il y a eu des étapes successives, d'abord sur un plan national ou européen, puis avec l'arrivée des ondes courtes, on a pu écouter des radios étrangères très lointaines. Par exemple, le jazz doit beaucoup à l'arrivée des ondes courtes sur les postes de réception pour écouter les stations anglaises et américaines. Et puis évidemment, l'autre étape très importante pour ce qui est de nos musiques populaires, c'est l'avènement de la libération de la bande FM en 82, puisque ça permis de diffuser des musiques, notamment le rock, etc., qui n'étaient pas diffusées par les chaînes officielles, ou très peu diffusées, on peut pas dire pas diffusées, mais enfin, ça leur a donné une audience considérable. Donc, on peut pas faire l'histoire des musiques populaires sans aborder la question de la radio.
Alors, j'imagine que vous avez écouté un petit peu l'émission d'aujourd'hui, avec ces fameux pionniers de la FM à Montluçon. Qu'est-ce que vous en ressortez
Ah ben, moi, le souvenir que j'en ai, j'étais adolescent, c'est que ça a été une espèce de libération incroyable et une prise de parole de gens qu'on n'entendait pas, voilà, qu'on n'entendait jamais à la radio, qu'on ne voyait jamais à la télé. Alors c'était un peu anarchique, mais c'était extrêmement vivant et enfin il y avait un côté humain très très fort. Tout d'un coup, des gens prenaient la parole.
Ouais, c'est ça, c'est de la radio, hein. c'est ça. Mais en tout cas, merci de nous avoir accueillis dans vos locaux, on s'est mis dehors, il faisait beau, on s'est dit, tant qu'à faire.
Avec plaisir, revenez quand vous voulez nous parler de radio.
Expliquez-nous un petit peu au MUPOP, qu'est-ce qu'on peut trouver. Ça y est, le MUPOP a réouvert ses portes.
Alors, le MUPOP a réouvert comme tous les musées de France depuis mercredi dernier, nous en sommes évidemment ravis. De pouvoir réaccueillir du public, parce que c'est quand même la fonction d'un musée. Alors le MUPOP, c'est un musée qui est consacré à l'histoire des musiques populaires en France, mais comme je viens de vous le dire par rapport à la radio, on ne croise pas que des musiques françaises, puisque la radio et le disque ont amené des musiques venant de très loin, l'arrivée du rock'n'roll par exemple, ou du jazz dont je parlais. Donc c'est un musée qui retrace l'histoire de ces musiques, qui en gros sont des musiques à danser. Des musiques festives et des musiques à danser, depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu'aux années 80 du siècle dernier maintenant. Donc on trouve les musiques traditionnelles, enfin ce qu'on appelait autrefois les musiques folkloriques, les fanfares, le bal musette, l'arrivée du rock and roll, le jazz, la pop musique, le rap, la pop, etc. etc.
Voilà. J'ai une question, est-ce que vous avez des supports aussi de diffusion?
Oui.
Les CD, bien sûr, mais il y a eu le vinyle, et puis avant le vinyle, il y a eu aussi tout ça.
Ah oui, bien sûr, oui. Alors, ça nous sert de deux manières pour montrer justement les moyens, cette révolution des moyens de diffusion au XXe siècle. Et puis, alors surtout pour les jeunes, hein, parce que quand on leur montre une cassette. Ça leur parle absolument pas.
Une pub d'ailleurs à la télé.
Ça se passe que c'est qu'une cassette. Donc voilà. Et puis alors, à partir des années 60, le vinyle nous sert beaucoup, non pas en tant que tel, mais pour sa pochette, puisque la pochette devient illustrée. Hein. Au début, c'était une pochette neutre, disque pâté ou disque Polydor. Et à partir de la fin des années 50, la pochette devient presque primordial même sur le contenu musical du disque. Moi, je suis d'une génération où on achetait le disque des Pink Floyd pour la pochette, quoi. Oui. D'abord, et puis après on écoutait le disque. Donc on utilise beaucoup effectivement les pochettes de disques à partir des années 60. Oui.
Le disque lui-même a pris de la couleur aussi à un moment donné.
Ah oui, tout à fait. Oui. Donc voilà, c'est si vous voulez cette révolution des moyens de diffusion, c'est une sorte de fil rouge au MUPOP, voilà, qui n'est jamais dit en tant que tel, mais à chaque époque, enfin quand ça commence à partir des phonographes, etc., les instruments de diffusion sont là.
On a beaucoup parlé de radio libre et c'est une question que je me pose et que je vous pose peut-être à Jacques. Est-ce que Bouvier, Radio Caroline, l'ami de Monsieur Rossi, Ah, j'ai bien dit là. Non, je déconne. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui en 2021, une radio libre? Est-ce que ça existe encore? Radio Pirate, on a bien compris que non ou pas, pour des raisons, on va dire, logiques, mais une radio libre?
Bah, je pense que nous sommes complètement libres. Alors, Jérôme n'est plus autour d'un micro. Jérôme, peut-être, tu veux peut-être prendre un micro pour répondre à cette question. Est-ce qu'RJFM est libre?
Une radio libre, la définition d'une radio libre.
Disons que RJFM est encore plus libre dans le sens où elle a des financements venant de l'État. Donc, elle ne dépend pas non plus d'autres manières financières. Donc, forcément, on est autant que libre.
Jacques ?
Moi, je suis d'accord avec ce qu'il vient de dire. Radio libre, c'est quoi ?
C'est un financement libre.
C'est un financement libre. Mmh. C'est une parole libre. Mmh. C'est la musique plutôt jeune, en général.
Oui, c'est le credo qu'on a pris. Et selon,
voilà. Pas de compte à rendre.
C'est ça.
Si ce n'est à la politesse. Donc, pour moi, oui, non, ça reste une radio libre.
Voilà. Didier,
merci.
Oui, je t'en prie, Didier, il n'y a pas de souci. Jacques, t'es venu avec des trophées.
Des petits souvenirs que je vais laisser à RJFM.
C'est gentil.
Hein, qui sont, par exemple, les deux galères d'or qu'on avait obtenues. Le calico qui servait
Galère d'or. Galère d'or.
Il y avait une société parisienne, une société de médiamétrie, qui faisait des sondages et qui, pour chaque commune ou chaque région, donnait chaque année une radio.
Locaux.
Voilà, donner chaque année une radio leader, qui est le Festival des radios leaders. Et
souvent sur la Côte d'Azur, à Nice notamment, ou Antibes.
Ou Béziers.
Béziers.
Non, mais il y a eu après.
Ah ouais, sûr. Moi j'ai connu que Béziers. Et effectivement, ça se passait en hiver en plus. C'était pas sympa pour revenir parce qu'il fallait passer les congères. Mais on avait droit à une journée entière où on était flattés. On était flattés pendant une journée, on rencontrait quelques artistes, il y avait de beaux spectacles. Et puis on était fiers de ramener notre galère d'or dans la ville où on habitait, quoi. En l'occurrence Montluçon. Voilà, donc j'en fais cadeau RJFM.
Mais c'est très gentil. Hein. Et le calico, du coup, c'est...
Alors c'est le calico qui servait, à la Foire Exposition justement, qui est la reproduction du
l'autocollant. De Radio Caroline, donc c'est fait à la peinture, ça, hein, on est d'accord. Hein.
Ah oui,
c'est artisanal. Hein.
C'était très artisanal. Hein, et pour l'époque, c'était super bien. Hein, c'était,
hein. Bravo d'avoir gardé tout ça. Hein. Oui, vous êtes des conservateurs, finalement, à Caroline.
Oui, exactement. J'ai aussi les deux cartes de presse.
Ah oui, Datanor.
Datanor, qui nous permettait de rentrer.
J'ai gardé aussi. Ouais.
Voilà. Quelques autocollants. Et puis, peut-être des photos qui vont te rappeler des souvenirs, puisque c'est les derniers locaux d'Europe 2.
Place d'Étoiles,
voilà.
Voilà. Alors, on a fait du passage d'Europe 2 à Phil FM et Europe 2, en même temps, un changement de locaux. Donc, sur la place d'Étoiles, qui avait des locaux. L'avantage, il y avait un parking, surtout. C'était ça l'avantage, en fait.
Il y avait un parking, on était en centre-ville aussi. C'était très important, hein, bien sûr.
Alors, et je voudrais rajouter une petite chose. Que ce soit à Radio Alliés ou Radio 3, ce soit, je pense, à RMB, que ce soit Radio Caroline, à chaque fois les studios, il ne faut pas croire que c'était des entreprises qui venaient nous les installer. C'était nous qui remontions les manches, prenons le marteau, la colle et on installait tout.
Moi qui venais de temps en temps le dimanche matin, parce que j'étais scolaire encore à l'époque, il y a un dimanche matin, j'arrive pour faire mes émissions et je vois Jacques qui était encore en train de le fer à souder. Il avait passé toute la nuit avec le fer à souder pour monter les studios pour que ça puisse émettre très rapidement. Et c'était un truc de fou, quoi, parce qu'il fallait faire tous les.
Là,
tous
on arrêtait le soir pour mettre la bande de nuit et il fallait que le lendemain matin ça redémarre. Hein. Il fallait qu'en une nuit ce soit
ça. Et comme tu dis, Jérôme, qui est un peu loin de moi, mais j'entends d'une oreille, et en effet, ça n'a pas trop changé encore. Hein. C'est un peu toujours la même chose. Sauf qu'aujourd'hui, maintenant, c'est les câbles RJ45, ça vient plus. Il y a ça aussi, les réseaux en plus, Internet en plus. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à cette émission sur les pionniers de la FM? Encore un dernier petit mot, éventuellement?
Vous savez quoi? Juste par rapport à tous ces gens qui ont commencé la radio avec un vent de liberté, malgré notre parcours après, pour certains, on a continué, malgré le fait d'être dans des radios aujourd'hui où il faut le dire ce qui est, il y a des moyens, où il y a une grosse structure.
Et on
j'ai dit pour certains, on a vraiment, et j'en parle souvent avec Didier avec qui je bosse, et vraiment on partage la même chose, on a cette nostalgie. Et je veux vous dire une chose, même si je travaille dans une énorme structure, on recrute plus facilement des gens qui viennent du monde associatif ou de cette période où on sait tout faire, parce que ce sont des couteaux suisses. Ils savent tout faire. ils peuvent faire une émission radio en répondant au téléphone, en réparant quelque chose. Ce sont des couteaux suisses.
C'est vrai.
Et ils n'ont pas eu de formation particulière souvent. Jacques a fait une formation, c'est vrai. Mais n'empêche que tu t'es formé quand même sur le tas après.
Bien sûr.
Parce que c'est
sûr.
La pratique.
J'avais la base, mais ça
s'est fait. Bien sûr.
Là.
Moi aussi, j'ai fait le studio de, ouais. de Radio France, mais ça n'a rien à voir. On oublie tout. Au bout d'un moment, on disait. T'as une voix, d'accord, mais merci maman, c'est tout, tu y es pour rien, alors maintenant tu vas bosser, quoi. Sérieux.
Merci maman.
Sérieux. Voilà, je veux juste vous dire ça, c'est très important, nous n'oublions pas, nous qui venons de ce monde où on était bénévole, où on vibrait pour ce qu'on faisait, on continue parfois à avoir cette envie et surtout à regarder dans le rétroviseur, parce que sans cette époque, on ne serait pas là.
Monsieur Bourguignon.
Oui, moi, juste pour préciser que c'est tellement important ce que vous avez vécu, quand moi, j'ai tenu, ce qui nous a posé beaucoup de problèmes, à retrouver un émetteur de radio pirate, donc avant 81. Et on a fini par en trouver un, qui était celui de Radio Massipal, donc à Massipalaiseau, dans la région parisienne, qui avait été miraculeusement conservé. Donc c'est un petit émetteur à faible puissance, hein, qui est justement dans la vitrine de la dernière salle consacrée aux années 80 et à ce qui se passe. Donc vous voyez, on a parfaitement conscience de l'importance de la radio pour ce qui est du MUPOP.
Merci.
Vas-y, Alain. Histoire d'en avoir encore deux ou trois émetteurs.
Ah oui, voilà. On était sûr qu'il y avait Alain Lombard, c'est sûr. Il y a toujours quelques émetteurs dans sa cave, ça c'est sûr.
On ne sait jamais.
On ne sait jamais, ça peut servir, exactement. Merci en tout cas à tous hein, pour cette émission, pour avoir bien sûr donné eh bien, toutes ces anecdotes hein, sur les années 80 en tant que pionnier de la FM en Montluçon. Merci également donc, au MUPOP hein, pour nous avoir accueillis sur ce parvis. Et c'est vrai qu'en cas de mauvais temps, on pouvait se faire à l'intérieur, donc c'était. Franchement, entre nous, on est aussi bien là. Hein.
Ah oui.
Hein, on est très, très bien. Merci également à la mairie de Montluçon pour son appui. Et puis, merci à vous tous, M. Chadeng également. Voilà, M. Chadeng, de votre présence. Et à très bientôt, j'imagine, à Montluçon. Vous allez venir nous voir peut-être plus régulièrement.
Mais oui, bien sûr.
Venez nous voir.
Sûr, bien sûr, maintenant que toutes les portes sont ouvertes.
L'année prochaine, vous venez nous voir pour les 30 ans de la radio RJFM.
Et oui, il y a un événement important. Tu sais que c'est l'anniversaire de beaucoup de radios, d'ailleurs. Et ça va être pour nous aussi une période de travail intensif, puisqu'on va relancer un appel presque général avec plus de 225 fréquences qui vont être mises en appel.
D'accord, oui, donc il y a un peu de boulot l'année prochaine, quoi. Alors, donc l'année prochaine, on fera également une émission, je peux déjà vous le dire d'ores et déjà, qui sera en direct depuis le collège Jean-Jacques Soulier pour ses 30 ans RJFM, voilà, renouer avec ses racines.
Des souvenirs, Jérôme.
Ah, oui, donc nous retournerons. Alors le collège a changé, hein, il a été rasé et reconstruit, mais on trouvait ça quand même assez symbolique de refaire donc une émission depuis le collège, depuis nos racines, voilà, donc de Radio 93, et en espérant qu'un jour j'arrive à joindre Didier Baptiste, le créateur de Radio 93. Peut-être qu'un jour, on y arrivera. Voilà. Merci en tout cas de votre présence à tous et à très bientôt.
Merci à vous.
Merci.
Merci aussi.
Merci.
Oui.